Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et en fait, trois jours avant, je consulte la météo, parce qu'en plus, je suis une acharnée de la météo, ça aurait pu être mon métier. Et
tu regardes la météo agricole ?
Évidemment ! Évidemment ! Je regarde la météo agricole.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de LMK, le podcast du kiff et de la digression. Je suis en compagnie de charmantes personnes aujourd'hui, mais alors vraiment très charmantes, hein, voilà.
Thank you, je le prends pour
moi. Alors évidemment, il y a en face de moi Madame Kalindi,
bonsoir.
Ici présente. À ma droite se trouve Ariane.
Ouais. Bonsoir.
Salut Ariane.
Salut.
Et à ma gauche se trouve Anthony.
Oui, bonjour.
Salut voilà. Anthony.
Salut Kalindi, salut tout le monde. Bonjour.
Je suis ravie vraiment d'être avec vous aujourd'hui. Comment vous allez ?
Ça va très bien.
Moyennement.
Ah. Cette introduction va durer 45 minutes.
Voilà. Faut pas poser trop de questions au début. Moi, ça
non,
va moyennement aussi.
Toi aussi, ça va moyennement.
Ah ouais.
Ah bon ?
Ah oui, je dois rendre Félix demain. Ça va pas aller bien.
Le deuil canin commence.
Voilà.
Petit fun fact, Stéphanie vient bien du grec. Voilà. Ah, on avait une discussion avant de commencer le PH.
Bah oui, PH, effectivement.
Okay, oui.
Et du coup, ça vient du Stéphane, du substantif grec Stéphanos, qui signifie couronné.
Mais bien sûr. Voilà.
Mais je suis la seule à pas être à l'école, en fait.
Non, mais s'il te plaît, moi, ça fait partie de mon prénom, je le savais pas.
C'est vrai, ça, par contre.
Voilà. Ok.
Non, bah, mais que PH, c'était merci. Grec, je suis là. What? Ok, bah, formidable.
Incroyable. Merci, Anthony. Ça commence fort, cet épisode. Moi, j'aimerais quand même savoir, Kalindi et Ariane, ça va pas fort, mais ça va quand même.
Ouais.
Oui, non, mais
moi,
attention.
Moi, j'ai ça pour dire un truc. Hein.
Voilà, ah, ok,
je
d'accord.
Fais mon intéressant, mais ça va bien.
Exactement.
Mais ça va bien.
Très bien. Et bah alors, écoute, ça va être peut-être le moment de faire ton intéressante parce que j'ai une question exceptionnelle. Oula. Pour débuter cet épisode qui m'a été soufflée tout à l'heure par notre prof préféré, Anthony Vincent.
Oui, bonsoir. C'est professeur Vincent pour vous.
Voilà, savez. Professeur Vincent.
Tellement chic.
C'est comme ça. Est-ce qu'on a le droit de parler de ton...
Mais j'ai même pas commencé, ça m'a porté la poisse, non?
D'accord, alors on n'en parle pas.
Mais
il en a déjà parlé.
C'est trop tard,
genre. Excusez-moi, attendez.
Ah, bah alors.
C'était vraiment il y a trois jours.
Tout ça. Je deviens professeur, à Chardon-Savard, une école de mode à Paris.
Bravo.
Et je n'ai pas encore donné mon premier cours, donc je vous en parlerai bientôt dans un kiff, peut-être.
What?
Très bien.
Ou c'est tellement sexy.
Dans un down.
Sans vouloir t'objectifier.
Tu peux.
Il c'est règne une tension spéciale.
C'est le but, c'est que tout le monde t'objectifie. Mais
évidemment,
je comprends,
évidemment.
C'est pour ça que je vais être prof.
Je vais mettre mes pantalons les plus moulants. Bref.
Mais je trouve ça génial. Et est-ce qu'ils vont t'appeler...
Professeur Vincent.
Professeur
que oui.
Vincent. Oh là là,
je vais imposer vos vouvoiements.
Professeur Vincent, monsieur professeur Vincent, monsieur professeur. Je n'ai pas fait mes devoirs. Non, ok. C'est quand même des études.
Dans Ducobu, il disait tout le temps monsieur le grosfesseur, je me rappelle. Ah. Et c'est vraiment la pire rêve culturelle de ma vie. Genre.
Mais tu sais pas d'où j'étais le PH vient, mais tu sais, en revanche, c'était Ducobu, quoi.
J'étais trop fan de Ducobu dans ma jeunesse. Genre, j'ai lu tous les albums.
Ah ouais.
J'étais fan de Léonie Gratin. qui est la rousse, c'était vraiment ma passion absolue.
C'est très drôle.
Et de Nénestre, surtout le squelette en fait de la classe, voilà. En fait, j'aimais tout, voilà. J'étais amoureuse de Monsieur Latouche, le professeur. Voilà.
Wow.
J'ai toujours aimé les vieux hommes, en fait. C'est pas ce que ça dit de moi ni de mon père, mais voilà.
Donc,
je comprends.
Donc, on va rester un peu dans le même registre pour cette question d'introduction, puisque donc cette question m'a été soufflée, comme je le disais, par le professeur Vincent, ici présent. Et la question est la suivante : quel genre d'élève étais-tu ?
Voilà.
Voilà. Donc, je la pose comme ça. Et je vais commencer par la poser d'abord à Ariane, qui se trouve à ma droite, puisque j'ai décidé que ça allait être toi.
Très bien. Excellente question.
Très basique.
Excellente question, mais la réponse va être très simple. Déjà, j'étais grave effacée. C'est-à-dire que j'existais pas trop au sein de la classe, que ce soit aux yeux des profs ou aux yeux des élèves. Parce que j'étais timide. J'étais très, très timide quand j'étais petite. mais j'avais pas forcément des bonnes notes, pas trop des mauvaises non plus. J'étais globalement dans la moyenne. Vraiment, j'étais effacée. Parfois, quelques bavardages, mais tu vois, jamais d'affront. J'étais pas insolente, pas du tout, parce que j'étais beaucoup trop lâche pour être insolente. Non, bien sûr. J'ai jamais eu de conseils de discipline, de mots dans le carnet, de trucs comme ça. Je sais, Marie-Stéphanie me regarde avec des yeux, l'air de dire. Je sais que tu étais une mauvaise élève, tu me l'as déjà dit.
Pas du tout.
Mais c'est un peu extrême, le conseil de discipline. Genre.
Ouais, mais... C'est vrai, oui, c'est un peu
même
extrême.
Même pas un petit conseil de discipline, attends.
Non, mais tu vois, même mot dans le carnet, machin, heure de colle. Alors, si, attention, anecdote, j'ai eu 2 heures de colle dans ma vie parce que je détestais les cours de PS. Je détestais ça, le sport et tout, ça, c'est ma hantise, d'ailleurs, même encore maintenant. Et en fait...
Tu fais du roller toutes les semaines ?
Oui, je fais du roller, mais c'est compte pas vraiment comme un sport extrême pour moi. Enfin, c'est vite fait du sport. Quoi.
Versus les sports extrêmes qu'on fait à l'école. Oui.
Genre la course, genre le 3x500, enfin, excusez-moi, mais sport extrême. C'est horrible, ouais. Sport extrême. Et le prof, un jour, avait dit... non mais, un peu en sortant de ses gonds, parce qu'on avait la flemme. Non mais, de toute façon, si vous voulez pas faire cours, et bah, vous faites pas cours, vous mettez sur le côté. Moi, ni une ni deux, je me dis, alors déjà, j'ai pas envie. 2, j'ai mes règles. 3, j'ai mal au ventre. Ben, tu me dis de pas faire le cours, je vais sauter sur l'occasion. Avec ma pote, on se met sur le côté. Et en fait, visiblement, il nous a mis 2 heures de colle.
Il a pris ça pour de la provoque.
Voilà, il a pris ça pour de la provoque. Sauf que moi, j'ai juste pris à la lettre ce qu'il venait de nous dire. Enfin bref, c'est peut-être le seul affront que j'ai fait un jour. Oui, c'est Mims. Franchement, c'est Mims. Et voilà, donc élève discrète, taciturne, note moyenne, franchement, rien à dire. Un peu peut mieux faire, quoi.
Voilà. On dirait vraiment ce qu'un prof aurait pu écrire
dans
un carnet de liaison.
C'était globalement
un vrai touriste aurait au moins pris des photos.
Ah. Voilà, c'est ça.
Prends des notes, mais... Anthony.
Ça veut dire ça. Mais effectivement, les profs, ils aiment trop mettre les mêmes appréciations.
Oui,
Et ça a été comme ça, du coup, tout au long de ta scolarité ?
Franchement, oui. J'ai été de moins en moins timide avec les années, mais globalement... et surtout, je travaillais de moins en moins. C'est-à-dire qu'en primaire, hyper investie. Collège, en sixième, hyper investie aussi. J'avais fini par avoir les félicitations au troisième trimestre. J'étais trop contente. Puis alors, à partir de la cinquième, ça a été la dégringolade, franchement. Je ne branlais plus rien.
Ah ouais ? Mais t'avais quand même des notes...
Oui, j'avais des notes correctes. Hein. Attention, j'ai eu le bac mention bien, quoi. Mais
T'avais quelques facilités.
Ouais, voilà. C'est voilà, ça. Exactement. Je
Ariane
me reposais sur mes lauriers.
Ariane se repose trop sur ses facilités.
Exactement. C'est exactement ça.
Ok, voilà. ok. Très bien. Kalindi, c'était comment, toi ?
Bah, pas loin d'Ariane, en fait. Un peu le même type d'élève. J'ai été excessivement, maladivement timide pendant très longtemps.
Ah ouais ?
Purée,
on dirait pas.
Bah, c'est parce que j'ai tellement travaillé dessus. Je suis quelqu'un de très timide et quand j'étais petite, c'était très compliqué pour moi. Je suis fille unique, j'ai grandi toute seule. Les interactions avec les enfants, c'était pas facile. Moi, mes références, c'était juste des adultes. Et j'étais bien que quand j'étais en dehors de l'école. J'ai eu beaucoup de mal, petite, à me faire des amis. Alors, je vous rassure, je me suis fait des amis après, heureusement. J'ai pas passé ma scolarité toute seule, mais j'ai été très timide jusqu'à ce que ma mère m'oblige à faire des cours de théâtre, ce qui a changé ma vie, ce qui a changé mon regard sur moi, sur les autres enfants. Je dis que j'ai eu du mal à me faire des amis, mais les amis que je me suis faites en moyenne section de maternelle sont toujours mes amis. Mes 3 meilleurs amis sont mes amis que j'ai rencontrés vraiment toute petite. Ça fait 25 ans qu'on est amis. En revanche, une fois que j'ai eu pris un peu la confiance, c'est-à-dire niveau collège, après, on m'a plus arrêtée en mode j'étais pas une élève supportable. Donc, j'étais très insolente, en revanche. J'ai détesté, ouais, voilà, c'est ça surtout, je pense. J'ai été une élève qui détestait l'école. J'ai détesté chaque putain de seconde de l'école, du putain de CP au fucking, fucking terminal. Et en fait, surtout le collège, là, ça a été l'horreur. Et puis, il faut dire qu'aussi, Marie-Stéphanie, tu sais, vu que t'habites à Levallois, moi, j'ai grandi à Levallois, dans une école de Bourges, avec que des blancs. On devait être 3 gamins à pas être blancs. Et en plus, on m'a appelé tout le temps la chinoise dans une velléité insultante, ouais. Alors que ça n'est pas une insulte des chinoises. C'est simplement que les gens se gouraient géographiquement. Et comme j'avais les yeux en amande,
et qu'il n'y avait pas de représentativité d'autres ethnies que... Bah, on avait des élèves noirs, on avait des élèves maghrébins, on n'avait pas d'élèves originaires de l'île Maurice ou originaires de l'Inde. Donc c'était très compliqué pour moi, j'avais personne qui me ressemblait, etc. Ça a été compliqué pendant longtemps. Bref, au collège, ça a été vraiment ça, très compliqué. Et puis au lycée, j'ai adoré, parce que déjà, j'avais plus besoin de mots pour rentrer... Enfin, il faut des mots avant, quand t'as 2 heures de trou
dans
le
collège. Ah oui, pour s'autoriser à sortir.
Quelle horreur, là, au lycée, tu fais ce que tu veux. Là, j'ai commencé à être bonne, parce que j'étais là, ah bah, je suis plus obligée de faire des mathématiques ou vite fait en seconde et première, mais vite fait. Et la terminale, je me suis éclatée et pour une fois dans ma life, j'ai eu le tableau d'honneur.
Ah ouais.
et après, j'ai eu félicitations en terminale au troisième tri. Et ma mère était là, mais attends, mais what, incroyable, parce que vraiment toute ma vie, j'avais rien eu et c'était peut mieux faire, se repose sur ses acquis. Ouais. Kalindi a des facilités, mais elle ne faut. Et puis j'avais. Ah oui, aussi, j'étais une élève qui n'avait aucun matériel. Donc, j'avais jamais
gratté tout le temps à tout le monde.
Je grattais tout le temps à tout le monde. J'avais pas de trousse, j'avais pas de feuilles, j'avais pas de stylo. Et en fait, mon sac me servait à entasser des feuilles que me donnaient mes camarades avec des vieilles miettes de croissant. Et ma mère, elle sortait mes sacs et elle était là, mais t'es vraiment un porc, en fait.
Oh là là.
Et bref, c'était, j'ai détesté ça. Et alors, j'ai détesté encore plus le supérieur où j'ai trouvé que c'était un enfer. Pareil, je me suis retrouvée à l'ISIT avec que des petits bourgeois infernaux,
c'est quoi,
prétentieux. C'est l'Institut supérieur d'interprétariat et traduction.
Ah.
Lol. Et parce que j'ai, en fait, comme que je voulais être actrice et que après j'ai pas eu les burnes, je me suis dit bon bah je vais faire quoi, je vais faire de la trad parce que j'étais bonne en anglais, en allemand. J'ai fait ça, j'ai eu envie de me suicider au quotidien. J'étais
c'est
qu'avec
avec
des gens super bons élèves, c'est avec la cato.
Ah non, pas du tout.
Avec la cato. Okay. Et en fait, vraiment, c'était l'horreur. Les gens soulignaient tous, encadraient leur titre en vert, soulignaient leur titre en rouge. Enfin, c'est pas pour WAM, quoi.
Oh là là.
Je suis sûre que toi, tu faisais ça, Antoine.
Moi, j'étais un peu de cette team-là, j'avoue.
Bon,
je suis très papeterie, moi. Ouais.
Très papeterie. Ouais.
Oui, mais c'est juste pour l'amour.
Ah, moi, je prête les feuilles.
Mais toi, c'est pour l'amour de la papeterie.
Bien sûr.
C'est pas pour être genre la suceuse du prof d'anglais, quoi.
Oui, je t'aimais
faire des suces.
Sur des Bristol,
c'était pour être la suceuse.
Est-ce que t'avais un
Ah non, c'était les élèves.
Non, c'est eux que je détestais,
ouais,
tu vois.
Okay.
Les suceurs, là, putain, mais moi, c'est tellement pas ma cam, quoi.
Ouais, non, ouais.
Mais c'est vrai.
C'est vrai,
je
n'étais pas trop team.
Je déteste les faillots. Je suis devenue faillotte plus tard avec ma hiérarchie au travail, parce que j'ai compris qu'il n'y avait que comme ça que tu avais des promotions. Mais sinon, j'ai détesté, quoi. Voilà, donc j'ai été une élève qui a détesté être une élève, globalement.
Ah, mais trop intéressant. Et juste, du coup, j'ai une question qui vous concerne toutes les deux. Est-ce que ça a défini la suite de votre vie ? Est-ce que votre rapport au taf, justement, maintenant, ressemble à ce que les profs ont pu dire de vous à un moment ou pas ?
Pour moi, c'est l'inverse. Je suis devenue tellement bosseuse alors que j'étais une branleuse finie. Mais je le traite en thérapie. Hein. D'ailleurs, le fait qu'on m'ait catégorisée pendant longtemps comme une branleuse a fait qu'aujourd'hui, je redouble d'efforts pour être productive, pour montrer aux gens que je suis productive.
T'as l'impression qu'il faut que t'en fasses plus que les autres.
Et notamment pour rendre fière ma maman. Mais c'est vrai, ma mère m'a vue comme une branleuse toute ma vie. Et c'est juste parce que le système scolaire n'était pas adapté. Enfin, c'est pas qu'il n'était pas adapté, c'est juste que je n'aimais pas, je n'adhérais pas, ça m'a fait chier. Et moi, je voulais apprendre à la maison et tout. Enfin, j'aimais pas l'école, j'avais du mal avec les autres. Ça m'a fait switcher. Je suis devenue une personne que j'essaye d'être le plus sociable possible. Et surtout, j'essaie de bosser d'arrache-pied pour montrer que moi aussi, je suis capable, en fait.
Mmh. Je trouve que c'est une très bonne question. Je me la suis jamais posée. Je pense aussi, effectivement, que moi aussi, on m'a beaucoup dit que j'étais une branleuse. Et d'ailleurs, plus mes parents, je pense, que mes profs. Parce qu'à la rigueur, mes profs, ils voyaient pas forcément que je travaillais pas trop, alors que mes parents, oui. Et effectivement, je pense que même aujourd'hui, le regard que je porte sur mon travail, c'est toujours un peu « Bon, bah, t'aurais pu mieux faire, quoi. Tu peux toujours mieux faire. C'est pas ouf, ce que tu fais, quoi. » Mais autrement... Mais c'est une bonne question. Peut-être que j'en parlerai avec ma psy. Merci d'avoir ouvert cette porte.
De ouf. C'est intéressant parce que c'est... Je vais pas teaser, moi, mon intervention, mais ce que tu disais, c'est quelque chose que je vis aussi, tu vois. Cette idée de se dire il faut toujours en faire plus parce que plus jeune, on a considéré que t'en faisais pas assez, que t'étais une mauvaise élève, qu'il fallait que tu fasses tes preuves, etc. Et c'est fou, parce que j'en ai beaucoup parlé à ma psy aussi, qui me disait, en fait, vous n'êtes plus la collégienne que vous étiez aujourd'hui, vous êtes une personne différente. Et c'est très difficile de se dire ça.
Mmh. Exactement. Bah grave, on traverse les mêmes problématiques.
Ouais. Tout le monde, je pense.
Anthony.
Bah je
qui
suis une personne très très semblable à celle que je suis aujourd'hui. Étant fils de prof des deux côtés, et bien en fait, j'avais l'impression que l'école était un prolongement de mon foyer.
Ah ouais.
Et du coup,
oh là là,
j'ai toujours eu un rapport très particulier à l'autorité. Et en fait, mes parents ont cultivé, malgré eux, un sens de la répartie qui fait que j'ai beaucoup de mal à m'écraser face à des figures d'autorité. Et que je le veuille ou non, je dégage une forme d'insolence continuelle dont je ne me rends pas compte. Je trouve que c'est juste faire preuve de libre arbitre et d'esprit critique. Mais on me dit, oh, quelle insolence. Et je suis là, bah non, j'ai rien fait. J'ai juste répondu à la question, quoi. Et voilà. Et moi, c'était ce repos sur ses lauriers. Vraiment, toute ma scolarité, c'était, j'étais insupportable parce que j'écoutais rien. Je bavardais tout le temps. Et dès qu'on me disait, Anthony, qu'est-ce que j'ai dit? Et ben, je savais le répondre parce que.
T'arrivais à te.
J'arrive à suivre plusieurs conversations à la fois. Et j'écoute tout en fois deux parce que je m'ennuie terriblement. Et j'ai besoin de. Enfin, j'entends tout autour de moi généralement et j'arrive à suivre plusieurs conversations et du coup quand le prof raconte son cours j'entends, j'arrive à enregistrer, je fous rien chez moi, je fais pas les devoirs et parfois je les fais avant qu'il ramasse les copies en classe et du coup je rendais des trucs, il y avait des notes correctes tu vois, mais j'étais insupportable donc c'était n'écoute pas, ne fais que de bavarder et c'était je séchais des cours mais après j'avais quand même des bonnes notes donc j'étais insupportable et mon but dans la vie c'était d'avoir les bulletins scolaires qui tiennent la route et comme ça qu'on me laisse tranquille à la maison. Et j'avais aussi un gros problème, c'est que je suis extrêmement étourdi. Et du coup, j'avais des profs bêtes et méchants qui donnaient comme punition quand tu faisais pas signer tes devoirs, enfin tes contrôles, tes évaluations. Et ben il fallait écrire 100 fois je ne m'oublierai pas de faire signer à mes parents. Et parfois c'était genre des 17 sur 20, tu vois. Et du coup, c'était absurde. Et j'avais une prof de français où j'avais des super notes qui j'en ai d'arriver à, je sais plus, je crois que c'était 600.
Et ouais, c'est n'importe quoi. Faire ça, surtout si t'as une bonne note, enfin.
Et du coup, ma mère avait fait un mot à ma prof pour dire en fait, je m'en fous de signer ces évaluations parce que surtout quand c'est des bonnes notes et je trouve ce système éducatif. Donc, ma mère, prof, s'était énervée contre l'éducation, la manière de faire de la pédagogie de ma prof de français. Et du coup, ça avait fait un scandale.
J'adore.
Moi, je me rappelle aussi une autre prof de français où j'avais aussi des bonnes notes. Du coup, c'était pire. Enfin, c'est rageant pour les profs. C'était. Je crois que c'était, je venais de rentrer et puis elle proposait un truc et j'étais là genre, bah ouais, mais en fait, je pense que c'est pas une bonne idée. Elle l'avait trop mal vécu, puis c'était le début de l'année, enfin bref. Et du coup, je me suis dit, ok, faut que j'apprenne à me taire.
Mais c'est trop drôle ce que t'as dit, j'étais très étourdie. C'est vraiment un mot de petit garçon, c'est je trouve, tu vois, je suis étourdie. C'est trop drôle que tu le dises pour décrire l'enfant que t'étais.
C'est vrai.
Mais je suis encore l'enfant que j'étais, enfin, je suis extrêmement étourdie, je suis très très tête en l'air. Et vraiment, j'oublie plein de choses et je suis pas du tout physionomiste. Bref, ça n'a rien à voir avec l'élève que j'étais.
Mais question. Est-ce que du coup, en tant qu'enfant de prof, t'avais une pression de la part de tes parents de vraiment étudier ou en tout cas...
Oui et non. En gros, quand t'es... Je vais pas généraliser, mais en tant que fille de prof, plutôt... c'est assez acquis pour moi le système scolaire, je sais ce qui attend de moi, je comprends facilement ce qui attend de moi et du coup clairement j'ai aucun mérite à ce niveau-là. Mais le truc c'est que ça vient aussi avec une forme de pression effectivement et donc mes parents s'attendaient à certaines choses que j'ai pas du tout attentes. Ils voulaient que je fasse l'école normale supérieure, moi j'étais sûr. Et du coup ils m'ont dit oui, vise les 5 meilleures prépas de France et j'ai pas été pris. Et du coup ça a été une grosse claque parce que de toute façon j'étais mauvais, enfin j'avais pas un dossier extraordinaire. J'avais des bonnes notes mais j'étais pas excellent quoi. Et surtout les appréciations étaient horribles. Une fois, mais je crois que je l'ai raconté ailleurs, dans un autre podcast, bref. Un podcast super que je vous recommande d'ailleurs, qui s'appelle « Les enfants du bruit et de l'odeur » sur le racisme dans le milieu scolaire. J'avais un prof d'histoire géo qui était horrible au lycée, en première et terminale. Et en première, il avait mis sur le bulletin du premier trimestre que je séchais les cours, ce qui était totalement faux, j'avais des problèmes de santé à ce moment-là. Et à la remise des bulletins, il avait dit à ma mère « oui, il a séché les cours et tout », et ma mère a dit « non, c'est pas vrai » et tout. Et après, je crois qu'il a dit texto « de toute façon, votre fils est con ». Il avait employé le mot con. Et ma mère, elle dit, oui, c'est ça, je lui dis tout le temps. Et je suis trop mal. Bref, ça m'a traumatisé. Et je pense, cette appréciation de 2, ce trimestre-là, alors que le trimestre d'après, j'avais genre 12, tu vois. Enfin, bref.
C'est absurde. Violent, quand même.
C'était hyper violent, mais je crois que ma mère s'est pas rendu compte. Bref. Et moi, ça m'a vraiment blessé à l'époque.
Bah ouais, tu m'étonnes.
Et bref, du coup, je sais très bien qu'il n'avait pas été pris en partie à cause de ça, mais j'avais aussi visé les meilleures prépas de France, donc c'était complètement lunaire de ma part. Tout ça pour dire que ça a mis une certaine pression, oui, sachant que mon père a eu un parcours vraiment de transfuge de classe, où vraiment il était fils d'agriculteur du fin fond de la campagne, et il a fait une thèse brillante, et du coup ça a mis une certaine pression, et c'est aussi pour ça qu'il voulait qu'on ait un bon cursus. Ma sœur, j'ai une grande sœur, qui a eu un très bon cursus, et moi j'étais très moyen, quoi. Donc,
t'as fait quoi comme école après, d'ailleurs?
J'ai fait la fac. Enfin, la fac, c'est bien, mais c'est pas ce qui était attendu de mes parents, je veux dire. Et donc, c'était archi déçu. Enfin, vraiment. Mon but dans la vie, c'était pas de les rendre fiers. C'est juste qu'ils m'avaient dit, il faudrait que tu fasses ça. Et j'ai dit, d'accord. Et en fait, j'avais pas réfléchi à ce que je voulais faire. Et j'avais tellement pas réfléchi à ce que je voulais faire qu'à l'époque, je voulais être prof, enfin, encore aujourd'hui, mais c'est une autre histoire. J'ai toujours voulu être prof, mais je sais pas dans quelle mesure c'est un désir intrinsèque ou par simple mimétisme social.
Mmh. Merci, professeur.
Oui, vraiment.
Merci, professeur Vincent. Non, c'est hyper intéressant. Et que justement, en tant que. Parce qu'on peut penser, justement, en faisant des généralités, que parfois, en tant que fils de prof, bah, du coup, tu te mets un petit peu plus dans ce moule. Enfin, moi, j'avais des potes filles de prof, qui étaient hyper bonnes élèves, vraiment, qui s'étaient fixées dans ce chemin-là, voulu aussi par leurs parents. Et qui après se sont complètement perdues parce qu'elles sont parties dans des voies qui leur plaisaient pas du tout et qui se sont retrouvées à l'âge pas très tard, tu vois, mais genre de 20 à 21 ans à se dire merde, mais qu'est-ce que je veux faire, je sais pas ce que je veux faire, c'est pas ce que je veux faire, je suis dans un chemin qui a été tracé pour moi et je me suis jamais posé la question. Et donc c'est cool aussi d'avoir pu avoir toi tes propres aspirations et de les réaliser.
En réalité, je ne les ai pas eues. Enfin, je ne vais pas dire que je ne suis pas à ma place aujourd'hui.
Tu n'es pas heureux d'être journaliste.
Non, c'est juste que je n'ai jamais eu le loisir de me poser la question. Et qu'en fait, en tant que fils de prof, dans mon cas personnel, je ne vais pas dire que tous les enfants de profs sont pareils, mais en fait, j'ai toujours eu une espèce d'application à faire ce qu'on me demande. Donc, c'est mon côté un petit peu scolaire, c'est que mes parents m'ont dit « tu feras ça », je l'ai fait. Et un jour, j'ai une tutrice de stage, enfin non, une intervenante pro à la fac qui m'a dit « ah, viens devenir mon stagiaire, tu serais super en tant que journaliste ». Et je suis devenue journaliste comme ça, quoi. Enfin, c'est vraiment, quelqu'un m'a dit « fais ça ». Et je dis « d'accord ». Et voilà.
Mais tu te dis encore que tu as envie de devenir prof
pour Non, je me dis, enfin, j'y pense, ça me fait rêver, mais je ne l'ai jamais fait, donc je verrai. Mais en fait, je me demande si j'ai pas toujours étouffé une forme de créativité que mes parents m'ont pas laissé nourrir. C'était une psychanalyse express.
Vraiment.
Non, mais il y a un sujet là, il faut qu'on fasse venir un psy.
C'est clair.
Avec nous. Nous
j'avais pas que l'école, ça allait déclencher de telles discussions.
Mais ouais,
mais en fait, c'est un tel catalyseur aussi de traumatisme, de plein de trucs.
Moi, j'étais l'élève qui fume des clopes à la cour de récré avec les gothiques de l'établissement. Et ensuite, vient en classe, hyper insolent, au fin fond de la classe, qui a quand même des bonnes notes, et qui fait rager les profs, quoi. Mais j'étais vraiment un sale gosse. J'étais vraiment un sale gosse.
Ça étonne personne, Anthony.
Trop drôle.
À cause du harcèlement scolaire, pardon. C'est surtout ça, c'est que l'école était aussi un espace de mal-être.
Oui, voilà. Ah, parce que tu l'as pas dit.
Oui, pardon, je l'ai pas dit. Tu disais, oui, un tel catalyseur de trauma. Et oui, en fait, je vais arrêter de faire le prof avec mon stylo. j'étais vraiment pas bien. Enfin, je subissais énormément de harcèlement scolaire.
Mais tu faisais le sale gosse au fond de la classe avec ton groupe de sale gosses? Ou t'étais solo en mode, YOLO?
Moi, ça dépendait des années, mais au départ, c'était plus très solo. Et au fur et à mesure, j'avais ma petite bande.
D'accord.
Démo.
Intéressant.
Et toi alors, Marie-Stéphanie ?
Eh ben, écoute, je pense qu'on aurait pu peut-être bien rigoler ensemble, Anthony, à l'école, parce que moi, j'étais également la sale gosse du fond de la classe qui jette des boulettes de gomme dans la classe, qui, au beau milieu d'un silence, c'est vraiment très bas de gamme, ce que je veux dire, mais dit caca au beau milieu du cours. Bah oui, mais ça nous faisait rire.
Marie-Stéphanie, ouais.
Bah oui. Bah oui, mais c'était extrêmement drôle.
Bon, est-ce que vous allez faire ça la prochaine revue? Vous allez dire « Caca !»
Quand il y a un blanc.
Je rigolerais beaucoup. Si
j'aurais jamais
ça.
Dû dire ça.
Oh putain, merde. Ça va ressortir. Non, mais j'étais pas du tout une bonne élève. J'avais effectivement des facilités. J'avais genre entre 10 et 12 de moyenne. C'est pas non plus exceptionnel, mais je travaillais. Ça ne m'intéressait pas. Je n'aimais pas l'école non plus. J'avais pas particulièrement de difficultés sociales puisque j'avais des amis. Je me suis jamais fait harceler, mis à part des méchancetés entre ados. J'ai pas eu de problème majeur. Mais j'aimais juste pas l'école en fait et je voyais pas l'intérêt. Moi, mon intérêt, il était dans me marrer, faire des trucs avec mes copines et c'est tout. Et il y a eu plusieurs choses en fait. J'étais dans un collège-lycée privé qui était à côté de là où habitaient mes parents à l'époque, donc à côté de Lyon. Et j'étais dans ce collège-lycée très tradi, tout simplement parce que c'était le collège-lycée qui était à côté de chez mes parents, qui était bien, et du coup mes parents nous avaient mis là-bas. Et mes deux frères étaient passés par là avant moi. Et mes deux frères, c'était vraiment des clowns, mais qui savaient se cacher. Donc, ils faisaient des conneries, mais ils avaient des super notes et ils étaient adorés des profs. Donc quand je suis arrivée, les profs se disaient « Oh, la petite sœur, mais c'est génial, vos frères sont géniaux et tout. » Et moi, j'étais là « Je suis pas sûre de pouvoir assumer. » Et je sais pas si c'est tout simplement pour me placer en opposition encore vis-à-vis d'eux, ou tout simplement parce que j'avais pas envie d'en branler une, que j'étais comme ça. Et donc, je me faisais très régulièrement coller, sortir de cours. Enfin, vraiment, c'était mon quotidien. Tous les jours, je revenais avec un truc, un mot dans le carnet, etc. Et la chance que j'avais, c'est que notre voisin était le directeur de l'établissement.
Est-ce donc, vraiment une chance?
Bah, oui, parce que ils s'entendaient extrêmement bien avec mes parents, et du coup, dès qu'il y avait des avertissements, parce que j'ai eu moult avertissements, mon père allait, ouais, non,
mais trop drôle.
Mon père prenait rendez-vous avec lui en disant, oh, je suis vraiment désolée, là, vous savez, on essaie de la cadrer et tout, mais il était un peu larmoyant, et puis le directeur disait, allez, je passe et tout, trop sympa, jusqu'à ce que le directeur change de, enfin change, mais c'est toujours drôle parce que quand je raconte ça, les gens me disent, ah mais en fait, c'est trop drôle, on voit pas que t'étais comme ça avant et tout, et c'est vraiment parce que ça a changé à un moment donné. Donc le directeur se barre, je me retrouve avec un nouveau directeur qui me dit gentiment, ce serait bien d'aller prendre l'air ailleurs. Donc c'est pas je te vire, c'est je te vire mais de façon hyper sympa. Et on était au mois de juin, et au mois de juin, ben, les lycées, donc là j'étais en troisième, j'allais passer en seconde, les lycées privés au mois de juin c'est mort, tu peux pas t'inscrire ailleurs. Et
donc là
tu
t'es fait virer.
Ah oui, au revoir. En même temps c'était en troisième, hein. Depuis la sixième je foutais le bordel.
Mais tu t'es fait virer Marie-Stéphanie, j'adore.
Non mais je sais, j'ai pas la tête
mais c'est
de
un
l'emploi.
Espoir pour tous les jeunes.
Non,
vous finirez peut-être à directrice de rédaction d'un magazine, j'adore.
Et franchement, ne lâchez pas l'affaire parce que je me suis fait virer, j'ai également redoublé.
Ah ouais.
Bah ma troisième justement. Alors pour la petite anecdote, sans m'étendre trop longtemps là-dessus, mais
elle a cramé son école.
Non, mais c'est rigolo comme anecdote. En gros, mes parents, à cette époque-là, mon père s'est retrouvé au chômage et mon frère aîné était pâtissier. Et mon père a dit, bon bah ok, on va se lancer dans un projet familial d'acheter une pâtisserie aux États-Unis.
What?
Okay. What?
Voilà, donc pendant à peu près un an et demi, ça a été le projet familial. Chose qu'ils ont fait après, mais au final à Lyon. Donc on n'est pas parti aux États-Unis.
Ah.
Et du coup, pendant un an à peu près, j'ai pensé que je pouvais rien branler parce qu'à l'époque, on m'avait dit le niveau d'études aux États-Unis est moins élevé qu'en France. Donc en gros, même si tu...
Ah ouais?
Je sais pas qui m'avait dit ça, mais tu sais, c'était rentré dans mon oreille, resté, et je m'étais dit, je vais pouvoir profiter de ma troisième, parce que je sais que l'année prochaine, j'irai en seconde aux States.
American Dream!
Lol! Finalement, on n'est pas allé aux States. J'ai loupé mon brevet une première fois, j'ai une 9,33 sur 20, je me suis fait virer, et je me suis retrouvée dans cette configuration où mes parents
J'adore
étaient désespérés.
Cette histoire.
Et bref, et du coup, on a dû me trouver un lycée hyper rapidement. Je me suis retrouvée dans un lycée hors contrat. Alors, tenez-vous bien, là, c'est vraiment pépite. Lycée hors contrat à Lyon. Donc, c'est un truc qui coûte, je sais pas, genre 6 000 euros l'année.
C'est ce qu'on appelle une boîte à bac.
Ouais. Mais sauf qu'une boîte à bac avec 20% de résultats au bac.
Oh
quoi.
Ah ouais, c'est pas beaucoup.
Et c'est vraiment que dalle.
Un bac, ça existe.
Avec pas de filière littéraire.
C'est l'histoire des sous-doués.
Mais bien
pas les sous-doués parce que bac.
Exactement.
Je connais pas.
Ouais. Et je me suis retrouvée là-dedans où il y avait donc que des fils de très grosses familles riches à Lyon qui en branlaient pas une et qui fumaient de la beuh entre midi et deux. Et alors, ça a été un choc pour deux raisons. La première, c'est que je me suis dit, je veux pas finir comme eux. Tout simplement, enfin trois raisons. Et la deuxième, ça a été de dire, bah, il y a 20% de réussite au bac, en fait, là, il va falloir quand même que je me bouge. Et la troisième raison, et majeure aussi, c'est que je voyais que mes parents se saignaient littéralement financièrement pour m'offrir la possibilité de continuer des études, parce qu'ils y roulaient pas sur l'or particulièrement, et ils me permettaient quand même de continuer à aller au lycée, quoi. Et donc, c'est à peu près à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je me bouge le cul. Et je me suis bougé le cul, j'ai changé de lycée, je suis allée dans un autre lycée, j'ai eu mon bac. Et après, je suis entrée à la fac et j'ai commencé à bosser. Mais c'était pas gagné parce que c'était pas du tout mon objectif de vie, quoi.
Waouh.
Voilà.
Putain, j'adore cette histoire.
Et quand même, je tiens quand même à rajouter quelque chose parce que c'est important. Donc effectivement, on peut arriver à faire des choses après, post-bac, déjà quand on n'est pas un excellent élève parce que le système scolaire n'est pas non plus parfait et pas non plus extrêmement capable d'accompagner les élèves qui ont des besoins différents. Bon, moi, je ne sais pas quel était mon besoin différent, mais, mais en tout cas, il y a plein d'élèves qui sont dans des cas particuliers et qui sont très mal accompagnés. Et autre chose, quand en première, j'ai exprimé mon envie à ma prof, d'ailleurs, c'est dans son cours que j'avais dit caca. Ma prof de philo,
bien fait.
Ma prof principale, je lui ai dit, je veux passer les concours de Sciences Po pour être journaliste. Elle m'a rionné en me disant, en fait, ma cocotte, déjà, t'es nulle à l'école. Ensuite, n'as aucun réseau dans le journalisme, donc c'est pas fait pour toi.
J'adore qu'on dise à un enfant de 16 ans et demi, 17 ans, n'as aucun réseau.
Bien sûr.
Oui, non, mais voilà.
Mais c'est lunaire.
Non, mais c'est clair. C'était, tes parents ne sont rien, donc t'es pas des intellectuels dans ta famille.
N'importe
donc,
quoi. Mais quel enfer.
Et n'empêche qu'à cause d'elle, j'ai fait du droit pendant 3 ans, ça m'a bien servi, mais j'ai quand même fait un petit détour de 3 ans avant de retourner au journalisme, quoi. Donc tout n'est pas parfait dans ce.
Et bien sûr, il y a tellement de changements de parcours de possibles. Moi, après l'ISIT, j'ai fait une école de journalisme et puis aujourd'hui, je me forme pour. Enfin, là, je fais une formation de réalisatrice en octobre. Enfin, tu vois, en fait, le monde a changé. Tu peux réapprendre 50 fois des choses différentes dans ta vie. Et je pense que c'est un super message pour les gens, peut-être les jeunes qui nous écoutent, parce qu'en fait, il y a plein. Enfin, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais je sais qu'il y a quelques années, il y avait beaucoup d'adolescents qui écoutaient LMK. Et je pense que ça va faire du bien aux gens de savoir que t'es pas obligé d'être excellent à l'école et que tu peux faire des choses après. Tout ne dépend pas de qui tu as été à l'école. Ouais. Donc, ça fait du bien, quoi.
Et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure aussi, se dire que même si vous avez été un ou une mauvaise élève à un moment donné, la personne que vous êtes aujourd'hui n'est plus cette personne.
Exactement.
Et que si on considère que vous êtes bonne ou bon à votre place, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que vous êtes bonne ou bon à votre place et qu'il n'y a pas de raison de vous culpabiliser ou de vouloir en faire trop aussi.
Ouais.
Parce que c'est comme ça qu'on se crame,
qu'on
fait des burn-out. Et...
C'est clair.
Tout n'est pas écrit.
Ouais. Eh bien...
Voilà,
un sujet rond devant moi.
C'était l'intro courte.
Oui,
c'était l'intro courte. Du coup, c'est le moment, c'est le moment des commentaires. Ariane, do you have a commentaire?
J'en ai pas malheureusement, Félix, car le dernier, nous avons tourné le dernier épisode il y a 2 jours, et visiblement. Non, il y a 3 jours, pardon.
3 jours, ouais.
Mais non, désolée, j'ai pas de commentaires pour cette semaine.
Kalindi, qu'en est-il pour toi? Tu disais tout à l'heure que tu avais des commentaires.
Ouais, j'ai été regardée dans mes DM, et alors j'ai... Coucou Kalindi, j'espère que ton été se passe bien. Je réécoute tous les épisodes de LMK depuis le début.
Waouh, un projet.
Tu as déjà dû l'écouter depuis le temps, mais dans l'épisode 30, donc ça c'est vraiment pour les gens qui écoutent depuis longtemps. Tu as déjà dû l'écouter depuis le temps, mais dans l'épisode 30 de la saison 3, Cédric te fait une si belle déclaration d'amitié alors que tu n'es pas là et tout le monde y va de son petit commentaire sur la belle personne que tu es. Merci. J'avais le cœur tout mou en réécoutant et je crois que c'est à ce moment-là qu'a commencé mon crush parasocial pour toi.
Oh.
Toute para-amitié, obviously. C'est comme ça à l'époque que j'ai saisi une partie de ta personnalité plus douce et bienveillante que ce que je croyais. PS, j'ai hâte de lire ton livre. Voilà. En fait, ce que j'adore, c'est que c'est vraiment un message pour dire au début, je crois que t'étais une grosse connasse.
En fait, t'es sympa.
Mais ouais, on apprécie. Bah, écoutez, merci à tous ceux qui se retapent tous les LMK depuis le début. Je comprends parce que moi, j'ai ça avec les grosses têtes. Genre, parfois, j'écoute les best-of
il
y a 10 ans, tu vois. Je sais, Anthony, personne n'est parfait. Et ouais, c'est un truc que j'écoute depuis que je suis petite parce que bah c'est ce qu'on écoutait dans la voiture avec mes grands-parents et tout, et c'est resté un truc que j'écoute le soir avant de dormir.
Mais non,
c'est ton podcast doudou, quoi.
C'est mon podcast doudou.
T'as déjà assisté à un rec ou pas?
Faut que tu
le fasses, c'est gratuit, hein, vraiment.
Mais
je l'ai déjà fait,
tu
moi, malheureusement.
Mais non, mais génial.
Parce que il y a un moment où ma mère avait une fixation ultime pour les grosses têtes, c'est-à-dire que le matin je me levais, elle était dans la cuisine en train d'écouter Laurent Ruquier, le soir je rentrais, elle était encore, enfin vraiment c'était une dinguerie, et parfois il y a des épisodes filmés là, diffusés
bien
à la télé,
sur la
alors
2.
Quand j'avais ça, laisse tomber, on pouvait rien regarder parce qu'elle devait regarder Laurent Ruquier. Bref, un jour pour son anniv, on l'a emmené voir un rec des grosses têtes.
Ouais. Non, mais c'est, on est d'accord. Hein. Je suis toujours obligée de me justifier sur les grosses têtes. Je sais combien c'est une émission problématique.
Ouais, c'est horrible. Hein,
je n'y suis pour rien.
On ne te jugera pas. Ça ne définit pas la personne que tu es.
Je juge au même titre que vous quand j'écoute. Est-ce que ça m'empêche de rire aux blagues de Marcella Yacoub et de Christine O'Krent? Bien sûr que non. Il y a aussi des gens de gauche vraiment sympathiques dans ce podcast. Voilà. Donc, merci à tous les gens qui réécoutent. Ça fait trop plaisir de savoir qu'on est votre podcast doudou et que même si vous êtes à jour, vous avez envie de recommencer pour redécouvrir des choses et tout. Depuis 6 ans, je crois que ça existe.
Wow. C'est ouf. Non, mais les auditeurs et auditrices fidèles, incroyable.
C'est clair.
Ouais. Anthony.
Oui, j'en ai un sous les yeux. Je cite Lisa. Coucou Anthony, je suis en train d'écouter l'épisode 10 de la saison 7 d'LMK où vous parlez notamment de votre évolution avec Matisse. À chaque fois que je vous écoute, je suis en voiture, du coup compliqué de vous envoyer des messages pour vous dire à quel point je vous aime. Merci d'accompagner notre échec quotidien, ou non, chaque semaine. Et justement, je me souviens des tes débuts dans l'MK où tu étais timide et réservé, mais au fur et à mesure des épisodes, tu t'es ouvert et j'ai découvert une personne... Bon bref, c'est gênant.
Personne sensible.
J'ai presque envie d'acheter un cuiseur de riz, mort de rire.
Un cuiseur de riz.
Je te raconterai. Est-ce que tu laves ton riz, Camille?
Well, no. Enfin, je le lave vite fait, je le passe à l'eau avant de le faire bouillir, quoi, c'est tout.
Ok.
Ok.
Anthony te juge.
Je me suis fait bâcher par Anthony.
Non, j'ai rien dit.
Bah oui, ça en dit long.
Exactement. Elle enchaîne et elle dit c'est toujours un plaisir de vous entendre, vous êtes tous géniaux, génial. Des gros bisous à toute la team LMK. Du coup, je lui raconte, merci beaucoup. Elle enchaîne pour nous dire. Parce que je disais à quel point c'est difficile de rentrer, d'être une nouvelle personne dans l'MK, parce que l'audience est très très attachée aux personnalités historiques du podcast, et on comprend, hein, bien sûr. Et elle me répond... c'est qu'il y a beaucoup de compliments, du coup c'est gênant. Et après, ça peut te rassurer et rassurer les autres. J'adore découvrir de nouvelles personnes au fur et à mesure. Ça rend aussi le podcast plus vivant. Il évolue et on évolue avec lui et les personnes qu'on découvre et qui s'ouvrent à nous au fur et à mesure, comme tu as pu le faire. À bientôt pour le prochain épisode. Alors, voilà. Ça c'était
trop
Lisa.
Chou,
merci
c'est
beaucoup
clair.
Lisa. Et un autre podcast.
Mais bien sûr, c'est comme ça. Enfin, sans vouloir tout ramener aux grosses têtes. Mais mais à chaque fois, au début, t'es là. Oh non, un nouveau, on s'en fout. Et après, ouais. T'es là. En fait, c'est mon préféré.
De genre,
genre Sébastien Toen et d'autres gens encore. Mais...
un autre commentaire dedans. Beaucoup plus bref. Parce qu'en fait, il m'a beaucoup étonné. C'est Estelle qui me dit coucou, j'ai réagi à ton commentaire dans LMK. C'est cool de vous entendre de nouveau d'ailleurs. C'est l'épisode qui est sorti, qu'on a enregistré il y a quelques jours, mais que vous avez déjà entendu. Bref, qu'importe. Début septembre, quoi. J'ai une amie qui est comédienne qui, l'année dernière, m'a rajouté sur un groupe WhatsApp dans lequel elle lit régulièrement des poèmes. C'est absolument merveilleux. J'ai très très mal lu. Mais imaginez une pote qui vous envoie des vocaux de poésie. Je crois que c'est les seuls vocaux que j'aimerais recevoir.
Ah ouais, moi, blague.
Oui, c'est de la drague, non?
Mais pas du tout. Non, mais c'est un groupe.
Excusez-moi.
Ah, ou alors un drag de la drague en commun. Peut-être, je ne sais pas, je ne me mêle pas, mais voilà, lisez de la poésie à vos amis, peut-être que ça leur fera du bien.
C'est mimes.
Tu crois?
Ouais.
Non, mais c'est possible.
Lis-moi des poèmes, Kalindi.
Je suis pas sûre que tu as envie d'entendre ma voix quand tu rentres chez toi, Anthony.
Fais-lui des petites notes vocales.
En vrai, je le ferai un jour bourré, je m'en souviendrai.
Je le ferai écouter dans l'MK.
On devrait instaurer une nouvelle rubrique dans LMK. Envoyez-nous vos plus jolis poèmes.
C'est clair.
Je crois que ça fait très longtemps
qu'on ou vos messages bourrés.
Bah oui. Voilà. Ou vos messages bourrés. Non mais parce que c'est vrai que on reçoit plus de messages boubou, je crois.
Bah ouais,
Ariane,
vrai.
La maîtresse du compte Instagram, il y a plus.
J'ai pas le compte Instagram, mais effectivement, non. Enfin, il est sur l'autre téléphone que je n'ai pas là tout de suite.
Dire,
mais non, ça fait longtemps qu'on l'a pas.
Du coup, c'est effectivement le bon moment pour lancer un appel aux messages boubou et aux poèmes aussi. C'est le moment de faire votre voix.
En fait, faites-nous des vocaux finalement.
Faites-nous des vocaux, oui. Par contre, oui, voilà, c'est pas genre tout le recueil de Baudelaire, quoi. Enfin, c'est un
extrait. Instagram, c'est limité à une minute.
Voilà, donc un seul vocal.
Oui, mais les gens, ils peuvent t'en envoyer 10, hein.
C'est vrai.
Oui, bah,
c'est
contrôlez-vous.
Les gens.
Contrôlez-vous.
Mais oui, contrôlez-vous. Mais c'est quand t'as un peu bu, t'as tendance à raconter ta life, quoi. T'as tendance à pas être
très synthétique. Des poèmes boubou.
Les poèmes boubou, j'avoue.
Écoute,
j'adore.
Écoute, c'est une super rubrique.
Oui, voilà. Tout le monde lit des poèmes quand on est ivre, bien sûr.
Bien sûr. Bien sûr.
Non, mais attends, un club de lecture de poèmes / apéro.
Je crois que tu me montrais du doigt parce que oui, moi, j'ai ça.
Tu lis des poèmes bourrés ?
Ça s'appelle l'ivresse. Et en fait, on lit des. C'est un book club où on est très vite bourré, quoi. Et du coup,
je crois que les gens se réunissent plus pour picoler que pour
bien
parler du bouquin.
Mais j'adore le concept.
On est là, oui, j'ai ramené du vin de natte. Et on parle plus du vin qu'on a ramené que du livre.
Vous lisez pas beaucoup, quoi.
Ouais. Si, là, c'est spécial rentrée littéraire. On a lu tous et toutes 5-6 romans chacun.
Mais voilà. C'est franchement, mais quand je vous écoute parler de vos vies, c'est moi, mais qu'est-ce que je fais quoi? Enfin, moi, je comprends pas.
C'est pas la chat GPT.
C'est nul.
Tu t'occupes de Félix. Oui.
Ouais, je m'occupe de Félix, mais moi depuis une semaine.
Mais faut pas se comparer.
Je sais, mais bon.
Il y a des périodes, tu sais. Moi, genre là, depuis le mois de juin, je me suis remise à beaucoup lire, mais j'ai pas lu pendant 6 mois. J'ai pas réussi à lire pendant 6 mois. Oui, mais après, je suis une grosse lectrice, donc tu vois, c'est aussi. Mais je veux dire, il y a des périodes de creux, c'est comme dans tout.
Ouais,
je suis d'accord.
Ouais, mais c'est un loisir parmi d'autres.
Il faut
juste
surtout
que
pas se culpabiliser, en fait.
C'est clair. Moi, je préfère être avec Félix que lire des livres.
Bah, bien sûr.
Oui, bien sûr. Bon, après, j'ai lu un livre cet été quand même, hein, mais bon.
C'est très bien. Bon, moi, je n'ai pas de commentaires, donc on peut passer directement au kiff.
Super.
Ariane. Quel est ton kiff ?
Alors, après mûre réflexion, car je n'avais pas de kiff avant il y a 40 minutes, j'ai repensé à une activité que j'ai avec ma mère.
Promis.
Il faut savoir...
Écoutez les grosses têtes.
Non, mis à part, écoutez les grosses têtes. Non, parce que quand elle écoute les grosses têtes, j'ai plutôt tendance à fuir. Il faut savoir que ma maman est malvoyante. Donc, elle est très myope et en plus, elle a une maladie qui s'appelle la dégénérescence maculaire avancée, ce qui fait que... elle a des zones, en gros, dans sa vision qu'elle voit pas, comme si elle avait des taches, en fait.
C'est ça, la DMLA.
C'est ça.
Oui, d'accord.
Et normalement, c'est une maladie qu'ont les personnes en vieillissant, mais pour ma mère, ça s'est étonnamment déclenché tôt. Enfin, bref. Et du coup, il se trouve que ma mère a toujours aimé lire, justement, on parle de lecture. Sauf qu'elle a vraiment du mal à lire, à regarder tout ce qui est écrit petit, même un écran d'ordi et tout, c'est compliqué. Ce qui fait que avec elle, on a un peu une sorte de rituel, on va dire. C'est que je lui lis des choses. Et donc souvent, notamment quand j'étais à la fac, je lui lisais les livres que moi je devais lire pour mes cours, aussi parce que j'adore lire à voix haute et que ça m'aide à mieux comprendre, à être plus concentrée, etc. Parce que j'avoue que j'ai un peu... Enfin, j'ai même beaucoup de mal à rester concentrée en lisant. J'ai du mal à lire beaucoup, quoi, d'un coup. Et du coup, en lisant à voix haute, ça m'aide beaucoup. Et en plus, ça lui fait la lecture. Et comme elle est italienne, elle a lu beaucoup de littérature italienne, mais elle connaît pas beaucoup vraiment de littérature classique française que moi, j'étudiais à la fac. Donc voilà, mon kiff, c'est faire la lecture à voix haute à ma mère et après de discuter. J'ai un peu un book club avec ma mère, en fait. Et après
est-ce
de
que vous murgez la gueule aussi ou pas?
Non, pas du tout. On boit plutôt du thé.
À tester.
Tea time. Et mini autre kiff dans le kiff, c'est que comme ma mère a toujours été un peu... Elle détesterait que je dise ça, heureusement qu'elle n'écoute pas le podcast. Ma mère a un peu honte de son handicap. Donc elle a beaucoup de mal à demander de l'aide, par exemple quand elle est dans des lieux publics et qu'elle n'arrive pas à se repérer ou voilà. Donc généralement, on l'accompagne beaucoup, etc. pour pas qu'elle ait à demander de l'aide. Et il se trouve que, il n'y a pas si longtemps que ça en fait, j'ai découvert un truc que je n'avais pas soupçonné, c'est l'existence des livres à grand caractère. En fait, il y a des éditions... des maisons d'édition qui impriment des livres exprès pour les personnes malvoyantes, mais pas que. En fait, le fait que la police soit grande, c'est vraiment... Alors, il y a plusieurs tailles, mais voilà. Ça peut aider aussi bien les personnes malvoyantes à lire que les personnes dyslexiques, que les personnes qui ont des troubles de l'apprentissage, parce qu'en fait, ou de l'attention, parce que vu que les caractères sont plus grands... je sais pas comment dire.
T'as moins besoin de te concentrer.
Voilà.
T'as moins de choses autour.
Exactement. Il y a moins de choses sur la page, donc c'est plus simple de se concentrer sur chaque mot ou chaque phrase à la fois. Et il y a plusieurs maisons d'édition qui font ça, notamment une maison d'édition qui s'appelle À la loupe ou À vue d'œil. Et bon.
C'est bien pensé.
C'est bien pensé, n'est-ce pas? Le seul problème, c'est que ça coûte une blinde. Parce que les livres coûtent en général à peu près entre 20 et 30 euros. Il n'y a pas de format poche, évidemment, pour une raison évidente, il faut des grandes pages pour mettre des grands caractères. Et surtout que comme c'est écrit très gros, il faut souvent faire plusieurs tomes pour publier un seul livre. Il faut faire plusieurs volumes. Sinon, ça devient un énorme truc, quoi. Le fait est qu'on a donc découvert que dans Paris, il y a une bibliothèque municipale dans le 16e qui s'appelle Germaine Tuillon, qui est spécialisée dans les livres à grands caractères. Donc je ne sais pas qui est-ce que ça pourrait aider, mais peut-être que vous vous êtes intéressé. Et en tout cas, sachez que, et d'ailleurs ça ne doit pas être uniquement à Paris, il y a des bibliothèques donc, dans lesquelles on peut emprunter gratuitement avec des grands rayons de livres spécialisés dans les grands caractères. Et en vrai, il y a quand même un large choix de classiques, de moins classiques, etc. Et du coup, grâce à ça, en vrai, ma mère a quand même pu réussir à relire toute seule sans forcément avoir besoin d'aide particulière ou que je lui fasse la lecture, même si c'est toujours agréable. Mais voilà, petit...
C'est super, voilà. Je ne savais pas que ça existait.
Génial, j'adore ce kiff.
C'était ce kiff, mon kiff.
Et je suis en train de regarder, du coup, là je suis sur le compte Instagram des éditions de La Loupe.
Voilà.
Et c'est vrai que ouais, enfin, il y a quand même une bonne différence, je vous montre ce que vous ne voyez pas, entre...
Ah oui,
les deux,
ah oui, c'est bien, ouais.
Enfin, c'est vraiment...
C'est vraiment plus grand, ouais.
C'est vraiment plus grand.
Merci beaucoup d'avoir parlé de ça, c'est génial. Est-ce que ta mère a déjà essayé le livre audio ?
Alors, je lui en ai parlé, mais je sais pas, ça la tente pas trop, je sais pas. Peut-être que... je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que ça la tente pas trop.
La nouveauté, peut-être, non, juste les... Hein,
sans... Je sais pas, je ouais. sais pas. Aussi
ça
parce que...
un petit moment toutes les deux ? Ouais. De rien, enfin, il y a le côté.
Quand c'est moi qui lis, oui. Après, en vrai, je pense que ça pourrait lui plaire. Le fait est que, alors, je sais aussi qu'il y a quand même des livres, des classiques qu'on peut trouver gratuitement en format audio. Mais sinon, il faut des abonnements, non ? Enfin, ce serait pas très cher, mais.
Il y a des plateformes de livres audio, ouais.
Mais gratuites ?
Non, payantes la plupart du temps, effectivement.
Ok. Mais je sais aussi qu'il y a quand même des classiques qui maintenant sont libres de droit, qui sont lus gratuitement, soit sur YouTube, soit, je sais pas, j'avais trouvé, là j'ai la moitié des infos, mais j'avais trouvé un site sur lequel il y avait vraiment une grande sélection de livres classiques qui étaient lus par des comédiens, comédiennes qui lisaient bien. Et bref, c'était super, mais du coup j'ai la moitié des infos, si je retrouve, je vous le dirai.
Mais il y a autre chose aussi, moi j'ai acheté l'année dernière une liseuse. Et en fait, sur la liseuse, tu peux augmenter la taille des caractères, enfin la taille du texte.
Ouais.
Tu peux augmenter la luminosité, enfin tu peux vraiment adapter. Et vraiment, tu peux augmenter beaucoup la taille du texte.
Ouais.
Et du coup, tu as accès à des livres qui sont à des prix normaux, voire moins chers, parce que c'est des e-books. Donc, du coup, t'as pas le... enfin, c'est moins cher qu'un vrai livre en papier. Mm. Ça peut être aussi
ouais carrément question. On avait regardé une fois, on voulait lui offrir ça à Noël, et en fait elle trouvait que le format de la liseuse était trop petit, parce que c'est un peu un format poche en fait, la liseuse.
Ouais. Je crois qu'il y en a des plus grandes
maintenant, je pense qu'il y en a des plus grandes,
mais notamment tu peux aussi acheter des formats e-book mais sur des tablettes.
Ouais,
tu vois,
ouais.
Et au moins t'as un iPad qui fait quand même une belle taille, machin, où pareil tu peux adapter,
mais elle a un peu le truc e-book. De la lumière de l'écran, c'est pas top,
mais c'est trop bien qu'il y ait des choses adaptées, des formats adaptés pour les personnes qui ne veulent pas se passer du format papier,
exactement,
qui aiment l'objet.
Ouais.
Mais trop chouette.
Ouais, c'est un joli kiff. En vrai, ça devrait parler à plein de gens qui ont des problèmes.
Trop bien.
Bah ouais. Dites-nous, hein, d'ailleurs.
Mais en vrai, même moi, quand je lis sur ces livres-là, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide, parce qu'il y a moins d'infos, quoi.
Ouais, ça m'étonne pas.
Voilà, exactement. Exactement.
Ça m'étonne pas. Ouais. Trop bien. Ok.
Voilà.
Et ben, c'est un super kiff.
De ouf.
Kalindi.
Oui.
What is your kiff?
Alors, mon kiff, c'est que au mois de juillet. J'ai parlé fort.
Non, j'adore.
Au mois de juillet, j'ai tenu ma première table d'hôte. Et j'en ai pas encore parlé, je crois, dans un podcast.
Pas dans LMK.
Non, c'est vrai.
J'en ai pas dans 4 quarts d'heure.
Je crois.
Mais je crois vaguement. Je crois que j'ai pas fait un... Donc là, je suis entier dessus. Alors, donc, j'ai ma maison à la campagne, dans le Perche. Et en fait, quand je l'ai acheté, je me suis dit que ce serait un super lieu, notamment pour des ateliers d'écriture. Bon, pour l'instant, j'ai pas assez de chambres. J'en ai que 3, donc ça fait que 6. Mais bon, faut que je dorme dans une tente. Bon, bref. Et donc là, on a une petite dépendance. On fait aménager pour faire d'autres chambres. Mais donc je voudrais que ce soit un lieu d'atelier d'écriture, que ce soit un lieu où je peux mettre plein de gens et tout. Et aussi, moi je cuisine beaucoup et j'avais envie que ce soit un lieu où les gens puissent venir librement goûter ma... Enfin librement, avec rémunération quand même, goûter ma cuisine. Et en fait, j'ai lancé... Donc déjà, j'ai dit à mon mec, il avait envie de se défenestrer parce qu'il était là...
Donc ça veut dire qu'on va encore avoir des gens qu'on connaît pas à la maison, sachant que moi je passe ma vie, en fait, dès que je bois un verre, ce qui est quand même très régulier, voire quotidien, j'invite des gens que je connais à peine chez WAM tout le temps. Et mon mec en a un peu marre de mes habitudes à vraiment inviter n'importe qui, et parfois à d'autres événements, d'autres gens qui connaissent pas, bon, bref. Et donc du coup, je lui dis ça, il me dit ok, mais moi franchement je serais pas là, j'ai un peu la flemme, je t'avoue. J'étais là, bon, donc là j'ai fait la gueule deux jours, machin. Finalement il était là. Parce qu'évidemment, le chantage affectif, ça marche toujours. Et ouais, donc en fait, sur Instagram, il y a plusieurs mois, j'ai dit que j'ouvrais 15 places pour venir manger dans mon jardin, dans ma maison de campagne. Et là, j'ai eu plein de réponses et tout, donc ça s'est vite booké. Après, il y a des gens qui ont annulé. Le côté opérationnel du truc m'a cassé les pieds au dernier degré. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une assistante pour à peu près tout.
Tu m'étonnes.
Ou un assistant ou whatever. Mais en vrai, j'adore faire des trucs, mais ce que ça demande en amont de et gérer les inscriptions et tout, c'est d'un chiant. Bref.
Finalement... Tu les as payés avant les gens ou pas?
Non.
Non. Donc ils annulent, ils s'en foutent, ils ont pas payé quoi.
Voilà. Okay. Et moi en plus, tu vois, il y en a plein qui m'ont proposé de me payer. Enfin, il y en a que 3 qui ont annulé franchement sur les 15. Donc je trouve que c'est très raisonnable. Voilà. Non, 4. Et j'ai relancé pour une personne, finalement ils sont devenus à 2. Donc c'était 14 personnes. Okay. Bon, bref. Mmh. Et voilà. Et en fait, je sélectionne comme date le 15 juillet. Au lendemain du 14, en me disant formide, il va faire un magnifique, c'est le 15 juillet. Bref. Et donc, en fait, moi, faut savoir que j'adore me lancer dans plein de projets, mais le truc, c'est que j'endors pas pendant 3 semaines. Donc, je suis super contente et tout, ça m'excite, mais en fait, j'ai une capacité à être stressée par le moindre pet de mouche que ma vie est fatigante, quoi.
Donc, t'aimes bien de faire du mal, en somme.
Ouais, ça doit être un petit peu de comment on dit, sadisme.
Ouais.
Non. Ouais, ouais.
Autosadisme.
Oui.
Masochisme.
Merci.
Masochisme.
Autosadisme.
T'es très créative.
Et voilà. Et donc, en fait, quelques jours avant mon déjeuner, sachant que chez moi, c'est assez grand pour que je puisse recevoir une quinzaine de personnes dans mon salon. Mais en fait, quand t'invites des gens en juillet, t'as envie de faire une garden party, en fait. Sachant que j'avais acheté une nouvelle nappe, j'avais acheté des légumes un peu magnifiques pour les mettre sur la table. Enfin, j'avais tout dans ma tête. Ça devait se passer dehors.
Ouais.
Et en fait, 3 jours avant, je consulte la météo, parce qu'en plus, je suis une acharnée de la météo. Ça aurait pu être mon métier.
tu regardes la météo agricole?
Évidemment, je regarde la météo agricole. Et donc, tous les jours, j'étais là et je dis à mon mec, putain de merde, il va y avoir un orage, mais de malade mental, ce jour-là. C'est-à-dire la veille, temps magnifique, le lendemain, temps magnifique.
Oh non.
Je commence à textoter les gens. Êtes-vous disponible dimanche au lieu de samedi? Non, désolé. Oui, mais en fait, que de telle heure à telle heure. Bon, bref, c'était une merde absolue. Et tout le monde m'a dit, écoute, c'est pas grave, si il pleut. J'étais là, alors... Ok, mais bon, moi, quand j'organise un événement, il faut que tout soit, tous les événements. Moi, j'ai déjà envisagé quelle météo, la partie de ping-pong après. Enfin, dans ma tête, je m'étais tellement fait un truc, je ne pouvais pas. Je voulais faire un truc. Ça ne pouvait pas se passer comme ça. J'étais terrifiée. Et donc la veille, je vais dîner chez des amis quand même. Donc je sais pas si terrifiée finalement, j'étais pas prostrée chez moi. Je vais manger chez des amis. Une puttanesca extraordinaire. Et donc là, je commence à me dire, merde, bah eux, ils font une super puttanesca.
Et tu moi, te compares, quoi. Genre, je suis une merde. Mon déjeuner, ça va être de la merde.
Je me dis, moi, j'ai fait n'importe quoi. Mon menu, il est pas cohérent. J'aurais dû faire une puttanesca. Mais quid des gens qui aiment pas les olives. Enfin, bon, bref. C'était branle-bas de combat dans ma tête. Et donc, il faut savoir que ma meilleure amie, Élise Piécoque, dont j'avais promis que je ne citerais plus le nom de famille dans ce podcast.
Attends, dit ma meilleure amie, quoi?
Élise Piécoque.
Ah, d'accord.
Mais pourquoi tu redis son nom de famille?
J'enlève Élise, pardon. Mais bon, en même temps, ça fait 6 ans que je dis son nom, ça n'a aucun sens. Donc, ma meilleure amie Élise est venue. Merci. Est venue 3 jours avant pour m'aider. Elle m'a aidée
3 jours avant.
Ouais, bon, il y a une journée, on a glandé, on a joué au ping-pong et on a bu de la bière. Mais les 2 jours d'après, on a fait que des préparations. Parce qu'en fait, 14 personnes, sachant que je faisais 3 apéritifs, 2 entrées, un plat, les fromages,
tout
les cafés.
Même.
Tout nous-mêmes, tout maison.
Okay.
À part le fromage.
Oui.
Tout nous-mêmes, les thés glacés, etc. Donc je vous raconte. J'avais en apéritif, j'avais quoi? J'avais alors classique des samosas au chèvre cendré, miel, menthe, pignon. J'avais une petite soupe de melon, crème de burrata, huile de basilic maison. Et j'avais un yaourt grec aux herbes avec des légumes rôtis dessus qui étaient délicieux. Ensuite, j'avais des œufs.
Marie-Stéphanie qui est deg de pas avoir été là.
Je suis en train de baser là.
Je te le fais gratuitement, Marie-Stéphanie peut bien manger à la maison.
On va faire un LMK.
Ah oui, ce serait génial, un LMK, on fait tout ça à manger.
C'est grave.
Ensuite, j'avais fait des œufs infusés à la betterave, donc fuchsia, avec un à l'intérieur, à la place du jaune, j'avais fait une mayonnaise wasabi petit pois sur une crème de petit pois wasabi, avec des condiments maison aussi, des pickles de toutes sortes. Ensuite, j'ai oublié. Ah, ensuite, j'ai fait des dumplings maison, tofu, tout était végé. Dumplings maison au tofu et champignons noirs avec un petit bouillon de shiso. Ensuite, il y avait un tagine de fenouil confit au citron. Ensuite, il y avait les fromages. Et ensuite, il y avait le tiramisu au matcha.
J'ai envie de pleurer, Kalindi.
C'était super.
Ça a l'air bon.
Ouais, mais tout n'était pas réussi, je te rassure. Parce qu'en tout, du coup, on a dû sortir 90 assiettes. Parce que, ouais.
Et la vaisselle,
on était trois.
Tu avais 90 assiettes?
Bah non, parce qu'en fait, c'est juste que en cuisine, j'avais Élise et Amaury, mon compagnon, qui finalement est resté et qui a été le mon amour, si tu m'entends, t'as vraiment été le meilleur des gars. Genre, oh, il ne s'est plaint à aucun moment. Il a été extraordinaire. Il a dressé toutes les assiettes. Dès qu'il y avait un souci, il le gérait trop bien tous les deux. En plus, ils sont très copains, ma meilleure amie et mon mec. Donc, franchement, ça a roulé comme sur des roulettes. Et dès que je rentrais en cuisine, en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que les gens qui venaient, ils venaient aussi passer un peu de temps avec moi, vu que c'était... j'avais pas capté ce.
Donc, tu pouvais pas rester en cuisine.
Et ouais, ouais. J'avais pas du tout capté ça.
T'animes.
Ah oui.
Donc, moi, j'avais pas mangé, j'avais bu. La pire idée, j'étais dans un état de nervosité, j'avais les cheveux dressés sur la tête, je pense que j'avais de la bave sur les coins, j'avais l'air d'une folle dingo. Et vraiment, et du coup, j'étais en carnaval, quoi, parce que je me suis dit, putain, si les gens se font chier, parce qu'il y a des gens qui venaient, ma maison, elle est dans le Perche, il y a des gens qui venaient de Bretagne, tu vois, juste pour mais venir non. manger, qui repartaient. Donc, du coup, je me suis dit, il faut qu'ils en aient pour leur argent. Du coup, j'étais là, et toi, tu fais quoi? Mais c'est incroyable, mais alors, vas-y! J'étais, mais je pense que les gens se sont dit, elle nous fatigue, en fait.
J'adore.
C'est énorme.
Folle dingo, mais vraiment folle dingo, au dernier degré. Et donc, le matin, pluie torrentielle. Horrible, j'ai envie de pleurer, j'agresse mon mec me prend à part, il me dit calme-toi s'il te plaît, on est là pour t'aider, tu nous fais un peu chier en vrai, déjà moi ça me fait un peu chier ce truc de base, et je dis mais non et tout ça va être charmé machin, bref la crise passe, la pluie passe et là éclaircie. Là, on remet la table dehors. Il repleut, on remet la table dehors.
Oh, putain.
À chaque fois, pour 15 personnes, avec 3 assiettes, j'avais fait tu vois, j'avais fait jolie table, des milliards de bougies, bref. Quand les gens arrivent, la table était à l'intérieur. Donc, les gens trop sympas, mais vraiment les gens les plus sympas de la Terre, m'ont tous dit, écoute, Kalindi, on va remettre la table dehors puisqu'il fait beau. On remet la table dehors. Et là, la météo était clémente. J'ai pu respirer. Je mettais les plats à table, je rentrais dans la cuisine. Mon mec était en train d'essuyer, de dresser. Élise était au fourneau, en train de faire une petite sauce. Elle était là, ne t'inquiète pas, on s'occupe de tout.
Oh, c'est trop mignon.
Ouais, ils étaient vraiment tellement mimes. Et franchement, on a géré ça de manière professionnelle, sans déconner. Il n'y a pas eu de temps entre les plats. J'ai pas tout réussi comme je l'aurais voulu. Mon tagine était amer. Il y avait des choses qui ont un peu merdé. Évidemment, tout le monde s'est réjoui pour le tiramisu, qui est vraiment le truc le plus simple. Et le seul truc que j'ai pas fait, c'était le plat d'Élise. Elle a fait le tiramisu pour 14 de A à Z. Les gens sont arrivés à 12h30, sont repartis à 19h30.
Wow.
On a fait un tournoi de ping-pong après dans le jardin. C'était super. J'avais dit pas d'alcool. Évidemment, on s'est bourré la gueule. et c'était chambé. Et quand les gens sont partis, on est allé boire une bière au bar et on était là. Franchement, ça
c'est
nous
fini,
a roulé dessus. Mais je ne sais pas. Tout ça pour dire, je voudrais témoigner mon éternelle admiration envers les gens qui travaillent dans la restauration, envers les chefs, les sous-chefs, les commis, les sociers, les serveurs et tous les corps de métier du service et de la restauration, parce que putain, vous faites un métier extraordinairement dur, et moi j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui voulaient un peu me rencontrer et donc qui étaient charmants, mais j'imagine quand t'as des trous du cul qui se présentent et que tu dois être... Alors bon, ça, ce que je dis ne s'applique pas évidemment aux serveurs parisiens.
Mais t'as la reconnaissance, ça fait tout pareil.
Mais franchement, tellement dur quoi. En tout cas, c'est une expérience que j'ai appréciée, mais que je ne renouvellerai pas avant l'année prochaine, parce que ça m'a vidé de mon énergie. Et déjà, je fais des ateliers d'écriture toutes les semaines où je dois gérer des dizaines de gens que je connais pas, où je dois être en carnaval, parce qu'en fait t'es en visio et les gens bah en fait ils mettent en mute et donc t'es en Jamel Comedy Club à toi tout seul, tu vois, et en fait c'est éprouvant, je ne sais pas comment font les profs quoi, parce que ça sont des gens du spectacle en fait, et qui en plus doivent véhiculer quelque chose qui relève de l'apprentissage, enfin c'est d'un compliqué. Je fais plus rien que d'en parler, tu vois.
Non, mais c'était, t'avais l'air hyper émue, c'était hyper beau, ta manière de raconter. J'ai l'impression d'être dans le Kalindi Extended d'univers, parce que je complète les histoires que tu racontes à droite à gauche, donc je suis à fond. Et bravo d'avoir fait tout ça.
Bah,
et
merci.
Surtout, ça dit aussi que t'es hyper bien entourée. Enfin, ta meilleure amie et Amaury, c'est trop beau.
Ah bah oui, non, mais en vrai, ça sera un kiff un jour, mais j'ai vraiment, je suis contente parce que depuis que j'étais au collège et où c'était difficile pour moi de me faire des amis respectueux de qui j'étais, et jusqu'à aujourd'hui, enfin, j'ai eu une chance extraordinaire de me faire tout au long de ma vie des amis sur qui je peux vraiment compter et d'avoir un mec exceptionnel qui n'est pas un vieux gars basique comme le sont tellement de mecs basiques et qui a vraiment pour envie de m'aider dans tout ce que je fais. Et en l'occurrence là, alors comme tout homme, il a commencé par râler avant de trouver ça formidable, tu vois, tout homme hétérosexuel cis et blanc, je veux dire, mais là franchement il a été formidable, donc c'est super, voilà.
Passer de râler à être en cuisine avec toi et enfin quand même ouais, respect.
Ouais non, il a été super, non vraiment c'est très chouette, très chouette.
J'adore cuisiner, c'est un peu mon langage de l'amour, et souvent j'adore faire des dîners pour 10-15 personnes, mais pas aussi compliqué que toi, hein. Et j'ai des amis géniaux et géniales, et j'avais un ex aussi avec qui je cuisinais très bien à quatre mains, mais sauf que je suis assez tyrannique en cuisine, et du coup je suis là, tu fais ça, il avait l'habitude, et du coup
qu'est-ce que ça étonne.
Et mais il avait l'habitude, et du coup ça marchait bien, mais je me rendais compte à quel point après chaque fois que ça arrivait je me disais mon dieu, mais j'étais odieux, il a me détester, et en fait non, il avait l'habitude et il savait que c'était passager et que ça voulait pas dire que je le détestais, mais juste que j'étais stressée et que c'est comme ça que j'exprimais mon stress. Et ça craint, hein. C'est pour ça aussi que vraiment dénoncer les violences morales en cuisine, c'est important aussi, bien sûr. Tout ça pour dire que parfois, il arrive que la cuisine rapproche et qu'on révèle sa vraie nature aussi en cuisine.
Ouais. Non, mais c'est clair, moi, c'est toujours un truc que je m'étais dit, c'est si j'échoue dans les métiers que je suis en train de faire aujourd'hui, ce serait un vrai truc, tu vois. Moi, j'adorerais avoir un tout petit resto avec juste 6 tables. Et bah, dans le Perche, il y a plein de tables, évidemment, ouvertes par des Parisiens qui sont exilés, enfin, évidemment, qui sont insupportables. Ils sont trop habillés, je suis là, les gars, c'est le Perche, lâchez vos velléités stylistiques, tout le monde s'en fout, tu vois. Mais je trouve ça chouette quand même de... Enfin, en tout cas, oui, c'est quelque chose que je me vois bien faire dans le futur. Mais bon, en tout cas, j'ai pu avoir un très léger aperçu de ce que c'était, et c'est vraiment dur.
C'est sportif. Hein.
Ouais, puis quand tu dois gérer toi-même les courses, les stocks, qu'est-ce que tu fais à qui. Puis moi, j'ai fait payer 40 balles pour les gens, par personne, pour tout ça, plus j'ai offert l'alcool à tout le monde. Donc en fait, c'était vraiment pour dire que j'avais pris quelque chose et pour me rembourser les courses, mais en aucun cas c'était pour me faire de la thune. Donc,
Et pourquoi tu voulais pas autoriser l'alcool au départ, justement?
Parce que j'ai pas le droit, j'ai pas de licence qui m'autorise à
même
vendre
si
de l'alcool.
Même si t'es chez toi et que c'est privé et que
j'ai le droit d'offrir, j'ai pas le droit de vendre.
Ah d'accord, ouais. Ok.
Ouais. Donc du coup je voulais. Et puis surtout en fait j'habite au fond d'une forêt avec plein d'arbres et de biches et de sangliers, et je voulais pas être responsable de gens qui meurent en fait dans la forêt ou alors qui tueraient un Bambi. Donc pour toutes ces raisons que je n'ai finalement pas respectées, parce que je me suis dit ok, les gens sont timides, on va ouvrir le rosé.
Mais tu l'as offert.
Mais je l'ai offert, donc c'est ok. Si c'était les gens légal. Meurent, au moins ça aurait été peu cher. Et moi j'aurais respecté la loi. Donc voilà.
Trop
c'était
bien.
Mon kiff.
Wow. Moi, tu m'as donné extrêmement faim, ça a l'air incroyable. Et je n'oublie pas le fait que du coup, tu cuisines et que tu cuisines bien.
Ah bah écoutez, on pourra faire un repas LMK, un de ces quatre.
Ah mais ce serait tellement cool.
Moi, c'est grave mon langage de l'amour aussi, cuisiner.
C'est vrai.
Ah ouais, je cuisine grave. Enfin, je suis prise d'une sorte d'enthousiasme culinaire dès que j'ai du désir pour quelqu'une. C'est incontrôlable. Vraiment, je suis toujours en train de proposer des dîners, des déjeuners, des pique-niques, machin, où je commence à cuisiner. Alors que parfois, ça n'en vaut pas la chandelle. C'est vraiment ridicule.
Ouais.
Voilà. Ouais. Mais voilà.
Moralité, ne faites pas 50 tiramisu avant de savoir que la personne est vraiment fiable.
Oui. Exactement.
Ouais. Totalement.
Exactement.
Et je vous admire vraiment. Alors moi, je cuisine pas.
C'est
je
vrai.
Je cuisine mal. J'adore manger. Et enfin, en vrai, j'adore cuisiner parce que je trouve que c'est une activité assez méditative, mais je suis assez mauvaise, quoi. Même quand je suis les recettes, il y a forcément un moment donné où je prends un peu des libertés parce qu'il manque quelque chose et ça gâche tout.
Ah merde.
donc mes amis savent et ma famille sait que voilà, je suis pas une bonne cuisinière, mais en revanche tu viens dîner chez moi, tu passes un bon moment, tu passes un très bon moment.
C'est
mais
déjà ça.
Ne t'attends pas à un dîner extraordinaire.
Et ton mec il cuisine
pas du tout?
Mais, que, non, mais non, que, non. Comment vous
nourrissez-vous?
Bah alors,
faut écouter les LMK précédents.
C'était, je vais te la faire courte parce que Kalindi, je sais que tu dois filer après, mais j'expérimente des choses et ma dernière expérimentation en date, parce que j'ai quand même envie de manger sainement, mm-hmm. c'est le salad bar. Le salad bar. Le salad bar. C'est le dimanche, parce que j'adore aussi en vrai aller au marché, j'aime trop ça. Et le dimanche, je vais au marché, j'achète des légumes, j'achète des fruits et je prends 2 heures pour éplucher mes légumes, les couper, les faire cuire 1 kilo de pâtes, faire cuire des lentilles et je fous tout ça dans des boîtes en verre et je coupe genre la feta, je coupe, je mets dans une boîte, je sais pas, genre des pignons de pain et je me fais chaud ou froid, du coup, des bowls. On mange aussi quand même pas mal de viande et de poisson, donc je fais mettre de la viande et du poisson sous vide, ce qui fait que le soir en semaine j'ai juste à faire cuire de la viande si je veux manger de la viande dans mon bowl et à assembler les choses et je n'ai pas de vaisselle et je n'ai pas beaucoup à cuisiner, mais je précise quand même que j'ai un enfant et du coup c'est aussi pour ça que j'ai très peu le temps et voilà, et mon mec, si je fais pas ça, c'est un peu triste à dire hein, voilà, mais lui il va se laisser mourir quoi.
Oh la vache.
Mais malheureusement, et c'est pour ça qu'un jour si j'ai un fils je l'éduquerai à cuisiner, non, parce sûr. Que bah, sinon il bouffe des sandwichs, avant de me rencontrer il bouffait des sandwichs triangles.
Putain, on dirait mon daron quoi.
Ouais, non, mais...
mon daron c'est boîte de conserve de haricots quoi.
Mais c'est fou bah quand même, mais...
tous les jours.
Pourtant, ouais. Ces mêmes personnes, j'imagine, vont t'opposer qu'ils aiment manger pourtant.
Bien sûr. Ah
bah ouais. Mais quand tu aimes manger, tu es obligé à un moment donné d'aimer cuisiner. C'est le paradoxe que j'ai jamais compris parce que, en fait, tu disais, parfois je prends des libertés, mais la cuisine, en tout cas, si on parle pas de pâtisserie, mais vraiment de cuisine salée, quoi, de cuisine du quotidien, en fait, tu peux prendre n'importe quelle liberté du moment que tes produits sont à peu près bons, il n'y a pas de raison que ça foire. Mmh. À moins que t'aies fait brûler un beurre et que t'aies le cancer du cul au bout de 2 ans, tu vois. Mais bon, tu mets un peu d'huile dedans, ton beurre il va pas cramer. Enfin, tu vois, normalement, je suis sûre que ce que tu fais, c'est pas dégueulasse, tu vois. T'as des bons produits.
Écoute, je t'inviterai à dîner à la maison.
Avec plaisir.
Vous savez quoi, on pourra faire ce premier LMK bouffe chez
bien
moi
sûr.
Si vous voulez.
Mais
à je voudrais rajouter que ce qui est aussi très plaisant, c'est de cuisiner à plusieurs et que peut-être que t'as des amis qui cuisinent relativement mieux que toi et en fait que à 4 mains vous allez mieux vous en sortir et que tu vas prendre des tips parce que parfois il y a des choses que tu rates juste parce que t'as pas la bonne astuce
d'accord.
qui fait que tu le raterais pas.
Ouais, vrai.
Tu vois, là tu parlais du beurre, rajouter de l'huile, bah il y a des gens qui le savent pas, tu vois.
Oui, oui.
Et Kalindi, et il y a d'autres choses comme ça toutes bêtes qui sauvent un plat.
Je suis d'accord.
Si t'as trop salé ton truc, tu rajoutes une pomme de terre et hop, ça sauve ton ragoût,
c'est
ta ratatouille.
Ouais, ouais.
Tu as plein de petites
la
tips
fécule,
que t'accumules.
Bien sûr.
Ouais.
Mais l'autre truc en vrai, c'est que j'ai une cuisine qui est pas très grande et qui est pas pratique pour cuisiner. Et ça, je trouve que ça casse tout en fait. Enfin, si t'as pas un espace quand même qui s'y prête bien.
La cuisine, faut avoir envie d'y passer du temps quoi.
Ouais.
Mais même un minimum. Enfin, moi, tout à l'heure, je regardais une zouze qui disait voilà, pendant 2 semaines, je fais des plats en 20 minutes. Je suis là, mais attends, 20 minutes, c'est déjà beaucoup. Hein. Moi, les 3 trucs que je fais, ils prennent 10 minutes max.
Ouais.
Enfin, tu vois, couper des légumes, les faire sauter, casser 2 œufs dedans et émietter de la feta et de la menthe, ça prend vraiment 7 minutes, tu vois.
J'ai faim.
Non, mais c'est vrai. Et je trouve que la cuisine aussi, c'est, tu peux te dire, en fait, tout est possible. Et quand tu comprends que tout est possible en cuisine, bah, c'est là que tu t'éclates, en fait. Tu fais ta life. Petit plaisir, quoi.
J'aime même pas manger, mais j'adore cuisiner justement.
T'aimes pas manger, Anthony ?
Non.
Ça m'étonne de toi.
Personne ne me croit, mais non, j'aime pas manger.
Mais tu manges des grosses quantités.
Bah, j'ai une grande carcasse. Mais
à alimenter, à nourrir.
Bien sûr.
Mais qu'est-ce que c'est que cette excentricité ?
Non, mais j'adore du coup cuisiner, et je trouve que quand tu cuisines avec quelqu'un, tu peux savoir si t'es compatible ou pas, en amitié ou en amour.
Au niveau des saveurs ou au niveau de
les
genre.
Deux.
Ah ouais.
Les deux. Et au niveau des saveurs, et au niveau de est-ce qu'on s'embrouille ou pas quand on cuisine ensemble.
Ah oui, oui, oui.
Et est-ce que quand je commence à tendre la main, tu devines ce que je veux prendre et tu me le donnes.
Wow. C'est dur, Anthony. Hein.
Non, mais l'autre jour, j'étais à Metz pour la pendaison de crémaillère, l'anniversaire d'une amie, et en fait, elle disait rien, et on se comprenait, et j'anticipais chacun de ses désirs, et en fait, elle m'a dit, ah, je vais faire un cake à feta aubergine, et en fait, on l'a fait sans même parler de la recette.
Okay.
Et on parlait d'autres choses, et on cuisinait ensemble, sans se coordonner, genre, sans réfléchir à la recette. J'étais, ah, ouais, on est vraiment amis.
C'est un langage.
Je l'aime tellement. Et là, c'est quand même, j'avais un mec à la maison, on a cuisiné des onigiratsu, c'était désastreux.
Oh, merde!
Du coup,
merde.
Je sais que c'est pas compatible. Genre,
ok.
Vraiment, il m'a trop déçu, quoi.
Énorme, non mais
ah ouais, c'est
hilarant.
Bref.
Non mais chacun sa façon d'envisager les choses. Kalindi, il faut que tu
nous quittes. Désolée.
Malheureusement, on va te regretter.
Je n'avais qu'1h15 aujourd'hui et on parle
parle décidément.
Et on papote. Hein. Mais je vraiment sincèrement, on va faire un LMK Bouche
avec
chez moi.
Plaisir.
Vous allez venir
franchement,
à la Zoumet.
Moi j'adore aller à Levallois.
Ah voilà, en plus toi t'es en terrain connu, hein, finalement.
De ouf. Bah merci beaucoup de m'avoir encore accueilli dans ce LMK. Merci beaucoup Marie-Stéphanie.
Mais avec plaisir.
Merci à
avec
vous tous. Au revoir Féfé.
Oui.
Tu ne dors plus jamais.
Ah bah.
Bisous. Salut Kalindi. Salut à nous tous, mais il y a qu'à Féfé que tu fais une petite caresse, hein. Bon. Alors Anthony, quel est ton kiff à toi cette semaine ?
Alors mon kiff, je me suis retenu d'écrire une thèse sur cet album que j'adore infiniment, qui s'appelle Mid Air de Romy. Alors Romy, vous la connaissez peut-être parce que elle faisait partie du groupe britannique The XX avec Oliver Sim. Donc elle s'appelle Romy Madeleine Croft de son nom complet. Avec Oliver Sim, Jamie Smith et Barry Curetti au début, mais cette personne a quitté le groupe assez rapidement ensuite. Et du coup, ce groupe a sorti un premier album en 2009 qui s'appelait XX, avec des chansons très connues comme XX et Crystallized. En 2012, c'était leur deuxième album Coexist, avec une chanson que j'adore infiniment qui s'appelle Angels.
Ouais, je suis d'accord, dinguerie.
Et un troisième album qui s'appelle I See You, vraiment trop de chansons magnifiques dessus, dont ma préférée qui s'appelle Lips. Voilà. Donc c'était trois albums d'électro assez minimaliste de ce groupe britannique où en fait Oliver Sim s'occupait de la basse et du chant et Romy Madeleine Croft du chant et de la guitare. Et donc c'est les voix qu'on connaissait le plus et dont les visages qu'on reconnaissait le plus. C'était les deux visages les plus associés au groupe. Même si Jamie Smith a cartonné aussi, il était au synthé. Il cartonne aussi en tant que producteur. Bref. Et du coup en fait le groupe s'est séparé parce que chacun a poursuivi une carrière solo. Ils avaient déjà des projets solo quand ils étaient en groupe ensemble, qu'ils menaient en parallèle. Mais là, le groupe est en pause en tant que groupe. Et Oliver Sim a sorti un album magnifique avec un single qui s'appelait Hideous Bastard, dont j'ai parlé sur Mademoiselle. Donc peut-être qu'on mettra le lien en description de cet épisode. Ou d'ailleurs, dans cette chanson, il faisait son coming out en tant que personne séropositive au VIH. Et c'est assez rare dans la musique. Donc vraiment un album magnifique d'introspection et de développement de soi. Et là, Romy, en fait, elle a sorti son premier album solo. Elle a 34 ans, elle est née en 89. Et cet album, en fait, elle se délecte de tout genré au féminin. En tant que femme lesbienne, elle genre toutes ses amours au féminin. Et en fait, c'est hyper rare. Et c'est fou de l'entendre dans toutes les chansons, presque. Chanter son amour pour sa copine. Et c'est merveilleux. C'est d'une tendresse, d'une légèreté, d'une euphorie. C'est un album vraiment somptueux. Je vous le recommande chaleureusement. Je sais même pas quoi dire. Tellement, en fait, il faut l'écouter, en fait. Je vous propose qu'on écoute tout de suite un extrait du premier titre qui est mon préféré, qui s'appelle Love Her. Lover, you know, when they ask me, I'll tell them. Won't be ashamed, no, I can't wait to tell them. Lover, I love her. Et du coup, bah, dans cet extrait que vous venez d'entendre, elle chante son amour pour sa copine. Et en fait, elle raconte quelque chose que je trouve assez intéressant. Elle raconte cette espèce de timidité qu'on peut avoir quand on est une personne queer et qu'on n'ose pas forcément avoir des gestes publics d'affection envers l'être aimé. Que ce soit lui prendre la main sous la table ou attendre d'être dans une ruelle sombre pour lui faire un câlin ou des choses comme ça. Enfin, c'est triste, mais plein de personnes queer vivent ça. Et public display of affection, genre PDA, ça, c'est quelque chose qu'on fait pas toujours parce qu'on a peur pour notre sécurité. Et dans cette chanson-là, elle fait un jeu de mots avec Love Her, qui peut aussi dire Lover, genre amant, mais qu'elle genre au féminin Love Her. C'est hyper intéressant parce qu'elle raconte dans cette chanson que, en fait, non, elle est pas timide, elle est très fière d'aimer sa copine et que c'est juste que certaines choses sont faites pour la vie privée. Je sais pas comment dire, mais il y a beaucoup, beaucoup de tendresse qui émane de chacun de ces titres, surtout celui-ci, qui est une balade comme ça, pleine d'amour. Et en fait, on sent une espèce de libération dans chaque titre où, en fait, elle a plus peur de dire qu'elle est lesbienne, quoi. Ça transparaît dans chacun des titres. Et voilà, et c'est aussi plein de nostalgie pour l'Eurodance des années 2000. Et tu sens qu'elle a clubé quand elle était ado avec Oliver Sim dans des clubs queer. Et qu'en fait, elle chante aussi ça, quoi. Et tu sens aussi un effet post-pandémie dans l'album où en fait, t'as qu'une envie, c'est de retourner en... Enfin, que certaines personnes ont une seule envie, c'est de retourner en club, danser. Et ce que je trouve drôle, c'est que en fait, tu sens qu'elle est timide dans l'album. Et c'est vraiment une pop star introvertie, quoi. Et donc vraiment autrice, compositrice, interprète qui chante comme ça ses amours queer, ses amours lesbiens. Et il y a une chanson aussi qui est merveilleuse qui s'appelle Enjoy Your Life, ou qui est juste un titre hyper solaire où vraiment c'est Enjoy Your Life qui est répété en boucle pendant 3 minutes, et c'est magnifique. Enfin, il y a plein d'accent house aussi dans l'album. Je sais pas quoi vous dire de plus si ce n'est d'écouter cet album, quoi, qui s'appelle Mid Air de Romy.
Ça donne très envie.
Ouais, je suis grave d'accord.
C'était une description express, je suis désolée, mais vraiment, la musique parle pour elle-même, quoi.
Non, mais c'était très vendeur. franchement, ça donne hyper envie. Et tu vois, c'est bien parce que tu nous apprends aussi. Enfin, moi, je savais pas vraiment qui y avait derrière The XX, tu vois. Donc, trop intéressant.
Bah, merci. Merci surtout pour Romy. J'allais ajouter un autre truc, c'est un de ses titres qui s'appelle Strong, où en fait, elle arrête pas de dire tu as été forte trop longtemps. Donc, il s'agirait de baisser la garde, ou en tout cas d'arrêter de te protéger autant. Et ça m'a rappelé un truc débile, mais qui m'a beaucoup marqué. Je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo de cette personne qui a fait son coming out trans entre temps. Et donc, il s'appelle Kara Cunningham, qui disait « Leave Whitney alone » pendant 3 minutes, à un moment où Britney Spears était harcelée. Et ben, cette personne avait dit une phrase très skyblog. Elle avait dit, elle avait écrit un jour « Parfois, pleurer, ça veut pas dire que tu es faible, ça veut dire que tu as été fort trop longtemps. » Et ça m'est resté gravé dans la mémoire. Et cette chanson « Strong » de Romy me fait penser à ça, où elle dit « Tu as été fort trop longtemps, calme-toi, quoi, prends soin de toi. » Et c'est hyper beau comme message aussi, je trouve. Et je crois que j'ai entendu cette chanson pour la première fois parce que j'écoutais un podcast où la créatrice de mode Jeanne Friot intervenait. Créatrice de mode qui est ouvertement lesbienne, et ça aussi c'est hyper rare d'avoir une personne out, d'une lesbienne out dans l'industrie de la mode à un poste de pouvoir. Et elle avait recommandé cette chanson sur un podcast, cette chanson qui est sortie longtemps avant l'album, parce que Mid Air, je l'ai oublié de le préciser, cet album il est sorti le 8 septembre 2023, mais juste elle a teasé des singles en 2020, 2021, 2022 je crois, donc ça a commencé avec Strong il me semble, et puis ceci ensuite, et maintenant Love Her, et Love Her en un seul mot, L-O-V-E-H-E-R. Sous l'intérêt du jeu de mots. Et bref, et donc Strong, ça m'a été soufflé par Jeanne Friot dans un podcast, et vraiment, j'adore ce son, quoi. Donc voilà, ne sais pas quoi rajouter, si ce n'est que... Ah oui, autre petite recommandation en passant. Il y a une autre chanson d'amour lesbienne que j'adore en ce moment, qui est de Aloïs Sauvage, qui s'appelle Joli Danger. Donc on peut écouter un extrait maintenant aussi. On fait tomber le haut, oh, 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 le bas et le haut, oh, oh, oh. Voilà, donc là, c'est Aloïs Sauvage, donc c'est en français, et ça fait un effet... Enfin, je sais pas si vous allez ressentir la même chose, mais moi, ça m'a vraiment fait tilt d'entendre une femme chanter son amour pour une femme dans de la musique contemporaine, et c'est assez rare, en fait. Et d'ailleurs, The XX, ce qui est intéressant, c'est que Oliver Sim est gay, et Romy est lesbienne, et dans leur chanson de groupe, comme c'est en anglais, quand ils chantaient à propos d'amour, et ben tu pouvais pas deviner qui était gay, qui était lesbienne, parce que tout est non-genré. Enfin, tout. Tu peux en tout cas facilement t'en sortir en anglais pour chanter de l'amour sans qu'on sache si t'es gay ou lesbienne. Et du coup, c'est encore plus intéressant et révélateur que de faire exprès de chanter des amours gays ou des amours lesbiennes, quoi. Et c'est pour ça que ça m'a fait un souffle hyper libérateur d'entendre ça en anglais avec Romy ou Oliver Sim. Et en français avec quelqu'un comme Aloïs Sauvage, quoi. Ça fait un bien fou, c'est hyper beau.
Trop bien.
Trop bien, merci beaucoup.
Ouais, merci. Je crois que je vais me l'écouter dans le métro en rentrant ce soir.
Pareil.
Ça donne vraiment trop envie.
Mais c'est très bien aussi pour danser seule dans sa cuisine, en cuisinant.
Parfait, oh là là. Oh là
mais voilà, mais il y a vraiment, c'est bien, tout est cohérent dans cet épisode.
C'est clair.
C'est extrêmement cohérent. N'est-ce pas, Féfé?
Et toi, c'est quoi ton kiff, Marie-Stéphanie?
Et ben justement, c'est un kiff en totale cohérence avec la thématique sous-jacente de cet épisode, qui est la bouffe, finalement. Moi, mon kiff, c'est un livre pour changer. pour changer, puisque la semaine dernière, c'était aussi un livre. Cette fois-ci, on n'est pas sur un essai, on est sur un roman. Et ce livre s'appelle « Dès que sa bouche fut pleine ». C'est un premier roman d'une autrice qui s'appelle Juliette Houry. Et Juliette Houry, elle est énarque, elle a 34 ans. Diplômée des Ponts et Chaussées, ancienne conseillère du ministère des Finances, donc voilà, pas forcément le profil qu'on pourrait attendre pour un livre pareil, avec un pitch assez particulier, enfin très drôle surtout. Pardon, je suis encore dans la douceur de ta recommandation, de ta recommandation musicale. Donc, Dès que sa bouche fut pleine, c'est un livre en fait qui présente donc un roman qui présente une réalité inversée et qui part d'un monde dans lequel la nourriture, le plaisir de manger et le fait de manger est tabou, alors qu'à l'inverse, le sexe est complètement intégré aux pratiques de la société, c'est-à-dire qu'on se lève le matin et pour être pour avoir une bonne hygiène de vie, on a un premier rapport sexuel le matin, le midi, on se masturbe avec ses collègues et le soir, wow, on est invité à baiser chez ses amis.
J'adore.
Donc dans une salle à baiser avec des pratiques bien précises. Donc t'es dans une salle à baiser, tu passes en banquette, s'ils appellent ça comme ça, passer en banquette. Bref, c'est un monde dans lequel vraiment tout est tourné autour du fait que la norme, c'est de pratiquer, d'avoir des relations sexuelles très souvent et à des horaires et des moments spécifiques de la journée. Donc dans cette histoire, on suit le parcours d'une jeune femme qui s'appelle Laetitia, qui est mariée, son mari s'appelle Bertrand, je crois. Et ce que j'ai pas dit, c'est que dans ce monde, bien évidemment, les gens mangent et se nourrissent, mais leur nourriture est composée de barres en fait hyper protéinées qui sont extrêmement fades, qui ont pas du tout de goût, mais qui ont juste pour unique but de les rassasier. Par exemple, c'est très très mal vu d'avoir faim dans cette société. Par exemple, tout ce qui est en lien avec la nourriture se trouve dans des rayons des magasins qui s'appellent Pornoprix, des rayons réservés aux adultes. Et c'est vraiment dans l'intimité qu'on se livre à la cuisine, qu'on se livre au fait de manger, mais ça reste quand même hyper mal vu. Donc, par exemple, si tu parles de manger à quelqu'un en public, tu risques de braquer la personne, autant que si tu lui parlais de tes pratiques sexuelles aujourd'hui. Et en fait, Juliette Houry, elle est partie d'un constat qu'elle a fait et que je pense qu'on est tous capables de faire aujourd'hui, qui est de dire que parler de sexe aujourd'hui, c'est encore tabou. Et il y a plein de gens qui disent non, c'est plus tabou, on peut en parler très librement. Et elle est partie de ce constat-là pour montrer, en inversant vraiment les deux mondes, en inversant les deux réalités, que le sexe, c'est encore très tabou. En fait, ce livre est extrêmement drôle. Donc évidemment, il y a plein de scènes de cul dedans, mais c'est comique parce que on retrouve Laetitia et son mari qui sont invités donc à baiser chez des amis et ils sont là, ils sont en train de se foutre à poil et ils parlent de la pluie et du beau temps, ils parlent de politique, ils parlent d'écologie, enfin vraiment c'est extrêmement drôle. Et bref, l'histoire est donc tournée autour de Laetitia qui se rend compte petit à petit qu'elle a un désir en elle qu'elle essaie de réprimer et ce désir en fait c'est la faim, c'est l'envie de manger des choses qui sont bonnes, qui sont goûtues. Ce qui est fou c'est que Juliette Houry elle décrit mais avec une sensualité, par exemple les tomates ou les fruits ou des légumes ou des plats, elle passe parfois vraiment plusieurs paragraphes à décrire de la bouffe et ça rend le truc hyper sexy, mais vraiment. C'est extrêmement drôle parce que surtout on se rend compte que ce tabou autour du sexe aujourd'hui dans la société est complètement débile parce que comme elle le dit dans le livre à un moment donné, comme Laetitia le dit à un moment donné, où je crois que c'est son, son collègue qui essaye un petit peu de la, voilà, de l'amener du mauvais côté de la bouffe. Il lui dit mais je comprends pas, enfin tout le monde a besoin de bouffer dans la vie, enfin c'est un besoin naturel. Pourquoi c'est tabou ? Et c'est rigolo parce que c'est exactement la même chose pour le sexe. Pourquoi quelque chose que tout le monde fait, qui est quelque chose de naturel, serait tabou ? Et bref, voilà, donc on la suit aussi dans ce que ses envies et ce désir un peu nouveau donnent sur sa relation amoureuse avec son mec, qui lui, vraiment, voit ça d'un très très mauvais œil. Il lui dit « mais ça va pas du tout, il faut que t'ailles voir quelqu'un, tu peux pas avoir faim comme ça tout le temps ». Enfin vraiment, ça, c'est en train de bousiller leur couple. Donc voilà, c'est un livre que je recommande parce qu'il est très bien écrit et extrêmement drôle et très fin parce qu'il n'y a pas de fausses notes, y a pas, toutes les situations sont inversables en fait. Quand ils vont baiser chez leurs amis, si tu retournes la situation, tu te dis mais oui, là on parle d'un dîner, on parle de la bouffe. Par exemple, Laetitia et son mec s'engueulent après un dîner chez leurs amis parce qu'il lui dit mais regarde, ils se sont mis en quatre pour nous faire plaisir. là on parle de pratique sexuelle quoi. Ils se sont mis en quatre pour nous faire plaisir, ils avaient sorti leur plus beau drap et toi, tu faisais la gueule. Chaque situation est vraiment renversable pour que ce soit pour qu'on se dise nous-mêmes ah mais oui mais ça c'est une situation complètement absurde que n'importe qui aurait pu vivre au quotidien.
Je m'interroge sur un point. J'imagine que du coup la promotion canapé dans cette dystopie ça serait tout à fait normal, mais en fait je me dis si le sexe est tabou dans notre société réelle, c'est aussi en grande partie parce que c'est un enjeu de pouvoir et donc de domination et aussi d'abus de pouvoir. Mais qu'en est-il dans cette dystopie avec la nourriture ? Est-ce qu'il y a du harcèlement culinaire ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça ?
Alors, il y a des choses, très drôles. Par exemple, au début du livre, le matin, en se réveillant, Laetitia met la radio et elle entend qu'une vieille dame de 72 ans a été arrêtée parce que... elle recevait des gens à manger chez elle. Elle avait une cuisine avec plein d'ustensiles. Effectivement, plein de recettes de cuisine qui sont considérées dans cette dystopie comme de la pornographie. Donc, bref, elle se fait arrêter, elle écope d'une énorme peine de prison et les gens sont tous choqués en mode « Mais tu te rends compte ? Elle avait une salle à manger ! Une salle à manger et une cuisine !» Et donc, t'as des passages comme ça qui sont... l'inverse de on a arrêté un proxénète qui prostitue, puisqu'elle est présentée comme ça en fait dans le bouquin, c'est genre une mère maquerelle un peu qui rameutait des gens chez elle pour les faire manger et donc les dévergonder et donc t'as plein de débats autour de ça. Après, il me reste un quart du livre à finir. Pour l'instant, je n'ai pas vu de situation comme le harcèlement culinaire, mais je pense que c'est pas impossible qu'il y ait un passage comme ça. Parce que ouais, l'idée, c'est vraiment d'essayer de retourner tout ce qui peut être en lien avec le sexe dans notre vie aujourd'hui. Donc, comme tu le dis, même les rapports de pouvoir. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un passage comme ça. Donc là, je tease le livre. Il me reste un quart du livre à finir. Mais je pense que c'est fort probable.
Je réfléchis aussi aux troubles des conduites alimentaires. Et je me demande dans quelle mesure... elle arrive à renverser ça aussi, potentiellement. Est-ce que c'est abordé dans le bouquin ? Mais tu nous raconteras, du coup.
En fait, là, je fais un teasing. Finalement, j'aurais dû faire de ce kiff mon kiff de la semaine prochaine. Mais franchement, j'ai tellement apprécié la lecture des trois quarts de ce bouquin que...
Tu l'as savouré.
Ouais, exactement.
Ok, d'accord. Bah, très bon teasing.
Trop bien.
Merci beaucoup.
Écoute, je vous reviendrai avec de plus amples détails la semaine prochaine. Mais ouais.
Comment tu domines quelqu'un en cuisine, quoi ? Dans une société où... prendre du plaisir en mangeant, c'est obscène. Est-ce que c'est tu domines en n'ayant pas du tout faim et en mangeant les trucs le plus insipides possible face à des gens qui ont faim ou qui n'ont pas les moyens de ne pas avoir faim, de se rassasier, genre.
Ouais, c'est intéressant. Bah, c'est vrai que là, c'est plus présenté dans le cadre du, tu vois, par exemple, du couple de Laetitia et son mec, où en fait, elle a des souvenirs du début de leur relation où ils cuisinaient ensemble. Où ils mangeaient ensemble et t'as tout ce truc on comprend à travers ces mots de proximité avec lui, de sensualité, de comme on pourrait dire dans un couple aujourd'hui putain on fait plus l'amour donc c'est plus présenté sous cet angle-là c'est ce que font les couples manger c'est ce que font les couples dans l'intimité quand ça va bien, quoi.
J'avais écrit un papier sur le speed kink.
C'est quoi?
Sur Mademoiselle, le kink du crèche, et j'avais parlé aussi du sploshing, qui est un autre kink, c'est le kink avec la nourriture, en fait, mélanger nourriture et rapport sexuel. Ça sera en lien de l'épisode, je pense, et je crois que le titre c'était je veux que Oscar Isaac me crache dans la bouche ou le speed kink sur mademoiselle.com. Voilà.
Il y a un vrai truc entre manger et le sexe, parce que certainement ton article le dit, mais même je sais pas vous, mais d'aimer quelqu'un si fort que vous avez envie de le bouffer, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Ouais. C'est ce que je décrivais dans l'article, c'est que il y a un truc de l'ordre de la sensualité, de l'absorption, il y a des envies cannibales à force de vouloir à force d'aimer quelqu'un, quoi. C'est assez commun de faire des raccourcis comme ça entre vouloir dévorer quelqu'un qu'on aime et le sexe, quoi. Mais bref, c'est la petite parenthèse pour placer un article de Mademoiselle.
Mais tu fais bien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller lire ce livre. Et puis, c'est très intelligemment écrit. Je pense que ça n'a pas dû être très simple à l'écriture. Je me suis mise en le lisant à la place de l'autrice. Et franchement, pour vraiment faire en sorte que tout soit cohérent, et c'est ça qui est ouf dans le bouquin, c'est que c'est cohérent, il n'y a pas de moment où tu te dis ah non mais ça, ça n'existerait pas dans la réalité inverse qui est notre réalité. C'est vraiment que des situations et je pense à un truc qui est dans le livre, tu disais quid des rapports de domination. À un moment donné, il y a un passage où Laetitia parle de son nouveau boss et elle dit il est très rigoureux et il tient absolument à baiser avec tout le monde dans la nouvelle équipe. Il dit que sinon il peut pas les connaître aussi bien qu'il le voudrait, donc du coup il se met une obligation d'aller baiser avec tous ses salariés,
tout genre confondu.
Donc voilà, il y a un truc à réfléchir là aussi. Et donc, si vous voulez les infos précises sur ce livre qui est sorti fin août, donc c'est Juliette Houry, Dès que sa bouche fut pleine, et c'est publié aux éditions Flammarion. Donc n'hésitez pas à aller vous le procurer si vous en avez l'envie. Et puis là, il est sorti en grand format à 19€, mais je pense qu'il y a des chances que... vu le succès débutant du livre, il soit édité en poche très bientôt et que tout le monde puisse se le procurer.
Trop bien.
Merci mal, Stéphanie.
Eh bien, merci à vous. Merci à vous tous les deux. Et Kalindi, bon, elle est déjà partie, mais merci Kalindi. Et merci à Fanny qui est nous toutes les semaines à rigoler à nos vannes ou peut-être même nous juger et se dire qu'on est vraiment de gros bêtas et de grosses bêtas. merci pour ton taf, puisque du coup, Fanny, c'est toi qui montes tous les podcasts de LMK et qui nous réécoute une seconde fois pour que la réelle soit parfaite pour vos
mes
oreilles.
Condoléances.
Voilà. Merci à tous et à toutes, et à très vite pour un prochain épisode.
Bisous,
salut,
Lamica.
Ciao.
Merci beaucoup.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.